d'accueillir Serge Benoît, qui est donc professeur à l'Université d'Évry et grand spécialiste de la machine à vapeur, notamment de l'industrialisation.
Pas tellement la machine à vapeur, l'hydraulique surtout.
De l'hydraulique, c'est Payen qui était le grand spécialiste de la vapeur. Qui a fait sa thèse avec Louis Bergeron. Denis Voronoff.
Mais c'est surtout Denis Voronoff.
Denis Voronoff. Voilà, donc je te passe la parole pour nous parler de l'eau.
Voilà, merci beaucoup. Donc mon sujet, c'est sur les usines hydrauliques d'adduction d'eau au 19e donc, et 20e siècle. Ça va tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Paul Benoît tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, une des thèses que je défends, c'est qu'effectivement, l'industrialisation dans toutes sortes de domaines, c'est fondamentalement appuyé pendant une longue période sur l'énergie hydraulique plutôt que la vapeur. Et là, nous avons montré effectivement comment sur ce type d'équipement, qui là n'est pas vraiment de l'industrie, mais des activités, je dirais, collectives industrielles, des services publics industriels, on a eu ce type de processus. Alors, bon, je vais très vite pour rappeler qu'effectivement, pendant très longtemps, le principal mode d'adduction d'eau pour alimenter les villes, ce sont évidemment les aqueducs, donc ce qu'on appelle une forme gravitaire d'alimentation. Depuis les ingénieurs romains, bien sûr, ceci a continué très longtemps, puisque ces formes-là ont connu une renaissance aussi bien au Moyen-Âge qu'un peu plus tard. Et puis, avec le développement des villes, on a vu également une autre forme se développer, qui est l'élévation mécanique des eaux au moyen de pompes qui sont actionnées dans un premier temps par des roues hydrauliques, et puis aussi donc la vapeur à partir de la fin du 19e siècle. Alors ces usines donc, d'élévation mécanique des eaux, on sait qu'elles existent à la fois anciennement. Tout à l'heure, Paul a eu une occasion de nous montrer déjà tout ce qui se passait dans les monastères, avec notamment ces norias, mais sous des formes un petit peu plus élaborées, on voit qu'à partir de la Renaissance, il y a effectivement de plus en plus donc, d'installations de ce type, pour des usages variés, c'est-à-dire il y a à la fois l'aspect ornemental, et là ça nous vient entre autres choses des Italiens, et puis d'autre part l'adduction d'eau à des fins de consommation urbaine de la population, ou encore donc les palais des souverains ou de l'aristocratie qui s'équipent également de ce type d'installation. Alors on constate par exemple que la littérature donc très connue qu'on appelle les théâtres des machines montre de plus en plus à partir du XVIe siècle des machines qui servent à élever l'eau. Ça, c'est un aspect caractéristique. Dans quelle mesure ça correspond à la réalité, c'est une autre paire de manches. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle, il y a de plus en plus de villes qui commencent à s'équiper d'installations de ce genre pour amener l'eau dans les villes. Ce sont aussi bien des petites villes que surtout des villes moyennes ou importantes. Je pense, si vous voulez, à Toulouse, par exemple, on a effectivement ce type de choses. Genève, qui se dote très tôt d'installations de ce genre, ou par exemple, si vous voulez, Amiens, que je connais pas mal, où on a effectivement encore aujourd'hui les vestiges, malheureusement je ne peux pas vous les montrer, ça aurait pris un petit peu de temps, d'une installation du XVIIIe siècle, du milieu du XVIIIe, qui se trouve encore à côté d'ailleurs d'une installation plus récente, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Donc si vous voulez, il y a effectivement des antécédents qu'on peut qualifier de proto-industriels de ce phénomène donc d'élévation mécanique des eaux, d'abord par l'hydraulique. Tout le monde a entendu parler, bien sûr, dans Paris même, de la Samaritaine et d'un certain nombre donc, d'installations comme celle du Pont-Neuf qui traduisent effectivement la volonté d'utiliser l'eau de la Seine pour ensuite emmener cette eau de la Seine. C'est l'énergie hydraulique fournie par l'eau de la Seine qui, en quelque sorte, permet de la faire partir vers les quartiers. Alors, ce type de processus va se développer, bien entendu, au XIXe siècle, où là, il va y avoir concurrence avec la vapeur, puisqu'effectivement, vous savez, à Paris, dès 1782, il y a des pompes à vapeur, qu'on appelle les pompes donc, du Gros Caillou, qui sont installées donc, avec des machines de watts construites par les frères Perrier. Et il y a vraiment tout un discours sur le fait que la vapeur permet d'obtenir une régularité dans l'approvisionnement en eau que l'hydraulique ne permettrait pas, parce qu'évidemment, il y a tout le problème des étiages, des variations de débit et autres, qui devraient normalement faire préférer la vapeur, donc, à l'énergie hydraulique pour ce genre d'activité. Et pourtant, alors je laisse de côté bien sûr aussi le cas très particulier des adductions d'eau à des fins ornementales. Le cas le plus célèbre, c'est bien sûr la machine de Marly, donc à la fin du XVIIe siècle. Mais cette machine de Marly, qui est la plus grosse installation hydraulique de l'époque moderne en Europe, je rappelle qu'il y a 12 roues hydrauliques qui font mouvoir donc des pompes et qui ensuite donc sont l'eau est amenée jusque au château par un système très compliqué de tirant donc emprunté donc à la métallurgie enfin aux activités minières. Et donc, c'est un cas très, très particulier que cette machine de Marly, même si elle est archi-célèbre, parce que c'est la plus grosse machine hydraulique qui existait donc, dans le XVIIe et le XVIIIe siècle. Machine qui marche très mal, finalement, puisque pratiquement, elle ne marche plus pratiquement dès les années 1720, et qu'on sera obligé de la réparer à plusieurs reprises, et on envisagera tout au long du XIXe siècle de lui substituer d'autres moyens. On essaie dans les années 1820 de lui mettre des machines à vapeur, mais ça n'est pas concluant. Et puis finalement, en 1850, on va se décider à utiliser des moteurs hydrauliques modernes, des roues perfectionnées qui alors, vont bien fonctionner, puisque je peux quand même vous donner cette indication, la nouvelle machine de Marly, comme on l'appelle dans l'histoire, marchera jusqu'en 1968, où là, sans souci du patrimoine, on va la détruire, si vous voulez, et ne rien conserver. Heureusement, il y a quelques photos qui permettent encore, si vous voulez, de voir dans quel état elle était en 1968. Et comme vous le savez, beaucoup d'installations de ce genre ont fonctionné très longtemps. Ça, j'y viendrai tout à l'heure. Donc, si vous voulez, on a en tout cas une idée qui fait son chemin à nouveau au XIXe siècle, c'est que plutôt que la vapeur qui va coûter fort cher, et surtout quand il s'agit d'une production qui n'a pas de grosse valeur ajoutée, c'est le moins qu'on puisse dire, il vaut mieux effectivement faire appel à cette énergie naturelle qu'est l'hydraulique, même si elle a un inconvénient, c'est qu'évidemment la continuité de fourniture n'est pas forcément assurée dans certaines périodes de l'année. Donc, en gros, ce que je voudrais défendre, c'est l'idée qu'il y a un essor des usines hydrauliques élévatoires au siècle de la vapeur, comme on l'appelle, si vous voulez, alors qu'au départ, tout le monde chante les miracles de la vapeur, de sa continuité, entre autres choses. En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer. On va continuer de construire des usines hydrauliques pour l'alimentation des villes dans plus en plus de cas, même si parallèlement, bien sûr, des usines à vapeur vont se développer. Alors, quelques chiffres que j'ai glanés, qui sont symptomatiques, si vous voulez, de tout cela. En 1899, on a donc, si vous voulez, des usines hydrauliques donc, qui sont quand même relativement répandues. Voilà les chiffres que je puis vous donner. Attendez, il faut que je retrouve ça dans mes notes. Donc, si vous voulez, c'est très symptomatique. Il y a sans doute une majorité d'usines à vapeur, et il n'empêche qu'on a continué, si vous voulez, de construire ces usines hydrauliques jusqu'à l'extrême fin du 19e et même en plein 20e siècle, puisque nous sommes à Poitiers, je peux signaler que une usine hydraulique qui avait été installée sur la colline dans les années 1870 a été modernisée en 1927 et avec, une, tenez-vous bien, une chute de 39 mètres qui ensuite été mise à profit par une roue Pelton. Vous voyez un petit peu, tout à fait original, c'est le génie civil. Je signale ça à André qui connaît bien cette revue, qui nous signale cet épisode tout à fait original et qui permettait de, avec, voyez, à la fois le jeu de la dénivelée et en même temps, si vous voulez, la récupération de sources qui se trouvaient au-dessus de Poitiers. Et ce n'est pas des cas uniques, si vous voulez. Il se trouve qu'effectivement, il y a tout un tas d'usines qui sont modernisées en plein XXe siècle pour faire ces adductions d'eau, avec des adaptations, bien sûr, et des topographies qui sont quand même fortement variables. Alors, attendez, je retrouve, voilà les chiffres. Donc, si vous voulez, en 1899, en France, nous avons 77 usines hydrauliques municipales. Ça, il faut insister sur cet aspect, la municipalisation de ce genre d'activité de distribution d'eau, qui représente quand même une puissance de 4 222 chevaux. Et à côté de ça, c'est des usines publiques. 90 établissements du secteur privé, qui eux, donc, cumulent 936 chevaux, ce qui fait au total 167 établissements, cumulant 5158 chevaux. Alors, donc, vous voyez quelque chose de caractéristique. Alors, on n'a pas le socialisme municipal comme en Allemagne, mais il y a quand même, si vous voulez, un intérêt des municipalités pour ces services d'adduction d'eau. Et dans le cadre du débat politique que vous ne manquerez pas, je suppose, dans le cadre du Forum de l'eau, d'avoir, c'est intéressant de noter qu'au XIXe siècle, si vous voulez, il y a eu, à l'exemple de Paris, je vous rappelle que c'est le baron Haussmann qui a décidé de municipaliser le service des eaux à Paris, alors qu'évidemment, jusque-là, c'est la Compagnie Générale des Eaux qui s'en occupait. Et au passage, si vous voulez, quand je constate un petit peu, la Compagnie Générale des Eaux est restée très largement fidèle à la vapeur, alors qu'en fait, les usines municipales, qui sont souvent dans des villes dotées de grandes rivières, ont choisi, si vous voulez, au contraire, de rester vieilles à hydraulique. Et c'est quand même symptomatique. Et c'est Paris qui donne l'exemple. Paris qui donne l'exemple avec, évidemment, les usines hydrauliques qui, en amont du fameux complexe de la Vanne, servent effectivement à élever l'eau vers le fameux aqueduc de la Vanne, qui est un chef-d'œuvre, vous le savez, du point de vue du génie civil, puisque c'est entre autres choses les premières constructions en béton qui sont utilisées, n'est-ce pas André, sur ce genre de parcours. Donc si vous voulez, on a quelque chose de très symptomatique, la ville de Paris qui va comme ça avoir une dizaine d'usines hydrauliques, soit sur la Vanne, soit sur la Lourcq, qui était, disons, une première adduction d'eau réalisée sous Napoléon Ier. Et donc, effectivement, le modèle parisien est très largement repris dans les autres villes. C'est-à-dire qu'effectivement, le succès de ces usines qui servent à alimenter, entre autres choses, l'aqueduc de la Vanne, et puis également des usines très perfectionnées qui sont installées sur le Lourcq, permettent effectivement d'inciter les autres institutions donc, publiques qui s'occupent d'adduction d'eau à garder l'hydraulique, même si, il faut le préciser, pour des raisons bien sûr de continuité de fourniture, un certain nombre de ces usines seront à force mixte. C'est-à-dire qu'on utilisera l'hydraulique aussi longtemps que c'est possible, et quand il n'y a pas assez d'eau, évidemment, on allume la machine à vapeur. Ça, on ne peut pas faire autrement. Mais si vous voulez, globalement, on peut considérer qu'il y a quand même une poursuite durant surtout, je dirais, le dernier tiers du 19e siècle. C'est la chronologie que j'ai tenté d'établir, si vous voulez, montre bien qu'on multiplie quand même ces usines hydrauliques élévatoires après 1870, pour une raison, entre autres choses, économique, à savoir que le prix du charbon, vous le savez, probablement augmente. Dans la dernière période du 19e siècle, on craint une crise houillère, et donc du même coup, on pense que quand on peut utiliser l'hydraulique, c'est pas plus mal. Et c'est quand même très symptomatique sur un choix économique. Alors, je ne peux pas vous donner des chiffres très précis là-dessus, mais ils existent sur la rentabilité, si vous voulez, de ces usines. Et déjà, la ville de Paris a énormément discuté quand on a fait le complexe de la Vanne sur la force nécessaire pour élever l'eau dans l'aqueduc. Et c'est quand même tout à fait symptomatique de ce point de vue-là. Alors, la vapeur, bien sûr, reste extrêmement présente. Hein, les chiffres sont faciles à citer, parce que, bien entendu, ce n'est pas parce que je vous donne cette indication favorable à l'hydraulique qu'il faut oublier que, pendant ce temps-là, de nombreuses usines à vapeur s'installent. Alors, attendez, je vais vous donner le chiffre qui a été enregistré. Je crois que c'est 30 000 chevaux, si vous voulez, pour des usines élévatoires à vapeur. Et en face, ça doit représenter, si vous voulez, par... c'est sûr que ça représente, oui, c'est ça. Les chiffres sont là. Vous avez effectivement des usines privées à vapeur, donc 994 usines pour 26 660 chevaux. Vous voyez, donc c'est quand même caractéristique. De ce point de vue-là, la disproportion entre la vapeur et l'hydraulique est claire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne renonce pas du tout à l'hydraulique sur la fin du 19e siècle, où théoriquement, la vapeur est reine dans l'activité industrielle. On voit bien qu'elle continue d'avoir un impact sérieux, puisque ça fait quand même pratiquement, vous voyez, le quart des usines d'élévation d'eau qui continuent d'être utilisatrices de l'hydraulique en priorité, même si très souvent, vous avez des machines à vapeur de secours, parce qu'évidemment, c'est indispensable. Alors, ça ne concerne pas que les grandes villes, avec l'exemple emblématique de Paris, mais aussi des villes tout à fait moyennes, comme par exemple Auxerre, si vous voulez, qui s'équipe de ce genre de choses sur Lyon, même parfois des petites villes, comme par exemple Gurgis-le-Château en Côte d'Or, un village qui avait à peine 1000 habitants à l'époque, vous voyez, qui se dote aussi d'installations hydrauliques élévatoires à l'emplacement, comme par hasard, d'une ancienne forge, qui ne servait plus. Vous voyez, il y a vraiment un tas de choses caractéristiques à ce niveau-là. Je surveille ma montre parce que le temps fait très rapidement défaut. Donc, si vous voulez, c'est un mouvement tout à fait caractéristique et qui reste quand même symptomatique. À Paris, on a envisagé, ça je le rappelle, si vous voulez, de refaire en quelque sorte des Samaritaines, mais avec des moyens modernes. En particulier, en 1835, Benoît Fourneyron, le grand inventeur de la turbine avec Arago, font une proposition devant le conseil municipal de faire à côté de Notre-Dame une usine avec munie de turbines qui permettrait donc d'alimenter Paris en eau, enfin en eau bien sûr pas potable, ça on s'en doute, mais en tout cas en eau de lavage, en tout cas en eau d'assainissement. Et puis finalement le projet est abandonné parce que tout simplement ça entraînerait des inondations, le bief sur les quartiers limitrophes. Et puis surtout, on commence déjà, vous voyez, on revient sur un débat qu'on a eu tout à l'heure, des aspects paysagers. On a dit que ça allait, si vous voulez, complètement perturber aux alentours de Notre-Dame, évidemment, les lieux, et donc on y renonce. Alors, le projet est repris, si vous voulez, dans les années 1860, par un autre hydraulicien fondamental, qui est l'ingénieur Louis-Dominique Girard, qui propose, si vous voulez, lui aussi, de faire une usine avec des turbines à proximité, donc non pas cette fois de Notre-Dame, mais sur le Pont Neuf, voyez, où il y avait déjà eu une station de type beaucoup plus ancien auparavant. Et ça aussi, ça va être discuté par le conseil municipal, puis rejeté à l'époque où Belgrand, l'ingénieur en chef, et Haussmann développent la discussion qui va finir par aboutir à la question de la vanne. Voyez. Mais il n'empêche qu'on a envisagé de faire du pompage direct. Voyez, c'est quand même très symptomatique sur cet aspect-là. Alors, on discute aussi de ce genre de choses pour l'adduction d'eau de Nîmes, qui a donné lieu, vous le savez, à de magnifiques travaux par la suite, du point de vue des aqueducs. Eh bien là, en l'occurrence, le débat fait rage au conseil municipal de Nîmes dans les années 1850 sur le choix entre hydraulique et vapeur. C'est finalement la vapeur qui l'emportera, mais on a beaucoup discuté, si vous voulez, il y a des débats extrêmement intéressants au conseil municipal sur le coût relatif, si vous voulez, de l'hydraulique et de la vapeur appliqué au cas de Nîmes. Alors il y a bien sûr un cas tout à fait spécial, c'est Marseille. Marseille qui se dote d'un extraordinaire aqueduc, hein, qui est le travail qui est fait donc sur la Durance et qui aboutit, donc, vous le savez, au palais de Longchamp aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'effectivement, cette eau qui arrive par gravité sur une très grande distance depuis de la Durance, après, il va falloir l'élever dans les différentes collines de Marseille. Ce qui fait qu'on va multiplier sur des petites usines hydrauliques et élévatoires à l'intérieur des quartiers de Marseille qui seront mues soit par des roues, soit par des turbines, pour, si vous voulez, redistribuer en quelque sorte ensuite cette eau qui arrive par la Durance. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très largement négligé, mais en réalité, je compte près d'une dizaine de ces petites installations hydrauliques, disons, dans la partie basse de Marseille, pour ensuite la remonter, voyez, vers les collines, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas l'amener directement à partir donc du fameux aqueduc. Donc, voyez, c'est quand même très symptomatique, la présence de toutes ces installations. Donc, on a un certain nombre de villes en France qui s'équipent de la manière. Bien sûr, Toulouse, qui avait déjà ses installations au 18e, qui fait des installations plus modernes à partir donc du premier tiers du 19e siècle. Genève, alors là, qui va multiplier les rénovations, puisqu'on peut considérer qu'il y a au moins 5 ou 6 installations successives à Genève, dont finalement une installation très moderne qui est installée donc dans les années 1880 et qui va servir non pas seulement à élever l'eau à des fins aussi bien de distribution d'eau potable ou autre, mais surtout pour actionner des petites machines hydrauliques qui vont faire mouvoir les ateliers, entre autres jours, d'horlogerie. C'est-à-dire que, si vous allez avoir une distribution d'eau sous pression à partir de cette usine élévatoire et qui, après, permet de mécaniser le travail à domicile. Et ça, c'est une des grandes réalisations de Genève, présentée à grand renfort de publicité lors de l'exposition universelle de 1889, qui aura quelques échos en France, puisque j'ai trouvé des traces de tentatives d'application d'un tel dispositif à Lyon. À Lyon, vous aviez évidemment des activités qui pouvaient être mécanisées dans le textile ou autre, si vous voulez. Sur Paris, on ne pouvait pas envisager de le faire. À Saint-Étienne aussi, à un moment donné, dans les années 1880, on a pensé utiliser un système, vous voyez, de distribution d'eau, ensuite, non pas simplement à des fins, de salubrité, mais aussi comme force motrice, surtout quand là, vous avez eu une distribution d'eau très importante par gravité, qui est évidemment à partir du fameux barrage du Furins, qui est un des plus beaux ouvrages de génie civil de cette période, et qui, sans machine, permettait, si vous voulez, d'amener de l'eau en abondance, et de l'eau de source en plus, depuis la montagne jusque dans la ville. Mais là, c'est encore un autre problème qui s'est posé. Alors, bon, le temps passant, je vais essayer encore d'accélérer un petit peu plus, pour dire que ces stations de pompage donc, se sont multipliées. Elles ont constitué un investissement important pour les villes. Paris, si vous voulez, est un très bel exemple, et c'est précisément cet exemple de Paris qui rejaillit sur toute une série d'autres localités qui s'équipent de cette manière. Voyez. Alors, il y a une raison technique à ce développement, c'est que les ingénieurs mettent au point des machines de plus en plus performantes, que ce soit des roues hydrauliques, comme la roue qui va servir donc pour la nouvelle machine de Marly, qui n'est pas une roue sage-bien, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais en réalité une roue de Bélanger, mais qui est efficace, même si elle n'atteint pas les 80% de rendement. Elle permet quand même déjà d'utiliser beaucoup mieux le potentiel hydraulique qui se trouve sur la Seine. Et puis, vous avez surtout l'ingénieur Louis-Dominique Girard, hélas oublié aujourd'hui, mais qui a été le plus grand hydraulicien du 19e siècle, qui n'a rien à voir, bien sûr, avec Pierre-Siméon Girard, hein, celui qui avait construit le canal de l'Ourcq et qui s'était fait d'ailleurs tirer les oreilles parce que ce n'était pas toujours parfait, le fonctionnement du canal de l'Ourcq. Louis-Dominique Girard, lui, c'est un ingénieur qui multiplie les formules de turbines, qui met au point une extraordinaire machine qu'on appelle la roue turbine, qui va être utilisée dans plusieurs des usines élévatoires de la ville de Paris, et notamment pour l'usine élévatoire de Saint-Maur, qui a l'emplacement donc d'un ancien moulin, permettait de pomper l'eau de la Marne pour ensuite alimenter le bois de Vincennes, hein, puisque c'était une des opérations que Napoléon III avait lancées. Donc c'est un peu comme à Londres, avoir des grands parcs. Eh bien, il fallait aussi qu'il y ait une alimentation en eau. Et c'est donc une usine importante, dotée de quelques 800 chevaux, avec à la fois 4 roues turbines de Girard et 3 turbines Fourneyron, qui permettaient donc, si vous voulez, de pomper l'eau de la Marne pour ensuite alimenter le bois de Vincennes. Alors je ne suis pas sûr que ça marche encore, non, puisque en 1930, on a remplacé cette usine par des pompes électriques, puisqu'évidemment, à partir des années 30, toutes ces usines élévatoires commencent à se doter de pompes électriques en remplacement aussi bien des moteurs hydrauliques que des moteurs à vapeur. Là, c'est un aspect symptomatique qui est là. On pourrait dire encore que ces usines élévatoires, elles sont utilisées pour l'alimentation des canaux. En particulier, il s'agissait de rétablir le niveau donc, des rivières dans un certain nombre de périodes comme les étiages, ce qui explique que vous avez un certain nombre de grosses usines élévatoires, notamment sur la Marne et puis surtout sur l'Aisne, qui sont installées, si vous voulez, de façon à rétablir le niveau de nécessaire pour la navigation. Car là, c'est un problème, si vous voulez, qui dépend de la navigation. C'est donc l'État et non pas les municipalités qui, dans ce cas, se sont chargées, si vous voulez, de ce type d'équipement. Alors, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, tout cela va durer longtemps. Amiens, par exemple, va remplacer son usine du XVIIIe siècle par une usine moderne en 1935, comme très caractéristique, avec 3 turbines. Et malheureusement, là, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir le temps de vous montrer ces images. Mais effectivement, quand vous allez à Amiens, sur le pont Saint-Michel, vous apercevrez une usine très typique, évidemment, par son architecture des années 30, en béton, et qui est malheureusement arrêtée. Là encore, la municipalité d'Amiens néglige une énergie naturelle qui est toujours sur place, puisque vous aviez quand même quelques 700 chevaux disponibles à cet endroit-là sur la Somme, et qui a fonctionné donc pendant longtemps, si vous voulez, pour l'alimentation en eau d'Amiens. Maintenant, ça sert tout simplement de local pour le service des eaux de la ville, voilà, sans plus. Mais sinon, ce serait intéressant de patrimonialiser, si vous voulez, une telle construction. Voilà. Enfin, préciser qu'à l'étranger, ce débat vapeur hydraulique existe aussi, puisque en Allemagne, dans le cas du socialisme municipal, comme on l'appelle, vous avez, dans les années, disons, non seulement avant 1914, mais encore durant l'entre-deux-guerres, et notamment dans les années 20, toute une série d'usines hydrauliques utilisant, par exemple, c'est le cas, si vous voulez, à Bochum, où ce genre d'installation fonctionne pendant longtemps, et même en Angleterre, puisque l'alimentation en eau de Liverpool est assurée, si vous voulez, à partir d'un barrage qui est situé donc dans les collines. Et à ce barrage, si vous voulez, donne une chute suffisamment importante pour actionner des turbines qui faisaient mouvoir des pompes élévatoires. Et en tout cas, même les Anglais, qui sont des gens extrêmement pragmatiques, encore une fois, il n'y a pas de dogmatisme de la vapeur chez nos amis britanniques. Chaque fois qu'ils peuvent utiliser l'hydraulique, ils s'en servent. La preuve, c'est que quand un grand nombre de techniciens et d'ingénieurs anglais ou écossais viennent en France au 19e siècle, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des usines hydrauliques, parce que tout simplement, ils s'adaptent au contexte français. Ils savent que le charbon est cher, et que quand on peut utiliser des rivières, il faut les utiliser. Et en plus, les Anglais, et j'insiste bien là-dessus, sont d'excellents hydrauliciens. Dès le 18e siècle, ce sont eux qui vont commencer à faire les premières roues hydrauliques perfectionnées, autour de John Smeaton, si vous voulez. Et après, les Français récupéreront, au début du 19e siècle, ces technologies britanniques, et commenceront ensuite, si vous voulez, à avoir leur propre technologie nationale. Mais il n'empêche que les Anglais sont d'excellents hydrauliciens. Ils savent très bien, si vous voulez, utiliser toutes les potentialités qui peuvent se présenter. Voilà, si vous voulez, quelques observations que je voulais faire sur cette question donc, des rapports hydrauliques-vapeur, et qui vont tout à fait dans le sens de ce que disait Paul, à savoir que notre industrialisation, pendant, je dirais, les deux tiers du 19e siècle, se fonde essentiellement sur une exploitation intensive des 700 000 km de rivières non navigables que nous avons en France, parce que c'est ça quand même qu'il faut préciser, et avec une technologie de plus en plus perfectionnée et qui permet effectivement, jusque pratiquement vers 1860-65, d'avoir une majorité de la puissance industrielle utilisée qui est hydraulique. Et donc, si vous voulez, c'est l'affaire des adductions d'eau, c'est simplement une illustration plus générale de ce processus. Je vous remercie. À moins le quart.
À moins le quart, nous avons un petit peu de quelques minutes.
Ah oui.
Je te passe le micro. Merci, monsieur Benoît.
Merci beaucoup, Serge. Je pense à une chose, c'est dans la première moitié du 19e siècle, il y a un système séparatif de distribution d'eau. Il y a, enfin, Londres, en France, etc., il y a ce qu'on appelle le bas service,
oui, tout à fait,
et le haut service. Et je pense aussi que la machine hydraulique permet d'avoir de livrer le haut service plus facilement, parce que c'est des plus petits volumes.
Parfait. Et puis, il y a une distinction fondamentale que je n'ai pas faite, mais là, c'est dans la bousculade, c'est à la fois le pompage de l'eau de rivière et d'autre part, l'eau de source. Oui. Et c'est vrai que le choix eau de rivière, eau de source est essentiel dans cette affaire-là, puisque c'est ce qui va, entre autres choses, l'affaire des sources, amener l'utilisation massive de l'hydraulique pour l'affaire de la vanne. Oui. Et pas seulement la vanne, puisque quand on va à la fin, l'extrême fin du 19e, aussi équiper le Lunin, vous aurez à Bourron-Marlotte aussi des moteurs hydrauliques qui vont servir au pompage. C'est très caractéristique de tout ça. Vous voyez.
Je voulais faire deux remarques. D'abord sur la machine de Marly, qui est effectivement tout à fait extraordinaire, dont on parle beaucoup. Elle a eu une conséquence sur la rivière de la Seine, hein, c'est que les trois îles qui étaient en face de la machine de Marly ont été fusionnées pour accélérer le courant sur, de la rivière. Et ça, c'est quasiment jamais dit. Et pourtant, c'est une des grosses modifications. Ça fait partie des modifications de la rivière que nous avons relevé sur un travail qu'on a effectué cette année. Bon, c'était juste une remarque qui me semble être importante, parce qu'elle... Ces roues peuvent avoir, comme Paul l'a montré évidemment complètement ce matin, ça a une modification sur les cours d'eau. La deuxième des choses, c'est une ville qui a utilisé beaucoup ce relevage d'eau, c'est Milan. J'en parlerai tout à l'heure, mais comme vous ne serez plus là, je voulais juste...
Oui.
Paul. Deux petites remarques, je vais aller rapidement. La première, c'est qu'il m'a semblé que les usines de la vanne sont conçues quand même avec des systèmes de roues assez simples.
C'est vrai.
C'est quasi médiéval.
Oui.
T'es d'accord avec moi ?
Oui, sauf qu'il y a aussi des usines à turbines.
Non, mais je parle de celles qui sont des usines à pompe que je connais.
Oui. Je trouve que c'est des roussages bien qui sont de performance remarquable pour l'époque, puisqu'elles atteignent quasiment 90% de rendement, ce qui est extraordinaire. Et effectivement, la vanne est un des lieux sur lesquels on va utiliser quand même des équipements perfectionnés, soit des pompes Girard à double effet qui sont très efficaces, soit des turbines qui ont été conçues après sélection par la municipalité pour être les plus performantes possibles. Et ce seront d'ailleurs ces usines de la vanne qui serviront de référence après pour toute une série d'installations municipales.
Elles sont sur des sites médiévaux.
Ah, ça d'accord, absolument.
Ça, c'est une certitude. Deuxième remarque, c'est un point de détail, c'est que le pompage d'eau de source se fait à partir d'une source située à proximité immédiate d'un cours d'eau, se trouve à Chantilly, au pavillon de Mans.
Ah oui, je sais bien.
Et là, c'est vraiment pour alimenter le château.
Ah ben, tout à fait.
En eau de qualité.
Oui, voilà. Mais il y avait déjà une usine élévatoire au XVIIIe siècle, effectivement, de type proto-industriel, et qui sera remplacée par le duc d'Aumale au XIXe, par une installation à turbine, et notamment par ma chère maison Fontaine de Chartres, qui va très largement équiper toutes les installations du duc. Donc, si vous voulez, c'est toujours quand même cette continuité entre la période proto-industrielle, où il y a déjà, effectivement, un certain nombre d'installations élévatoires qui font leur apparition, et puis leur modernisation au 19e, mais toujours pour des usages communs.
Voilà. Mais cela dit, le système induction, stockage, distribution, date de l'époque romaine.
Absolument, oui.
Il existe encore aujourd'hui, il y a 2000 ans.
Oui, oui. Mais sauf qu'il n'y a pas de machine élévatoire à l'époque. C'est ça la différence.
Oui, oui. Très vite. Jean-François Vernet au Poitiers. Usine électrique, on a bien compris, donc pour élever l'eau, notamment dans les réservoirs que l'on appelle souvent châteaux d'eau. Et les Anglais sont pragmatiques, avez-vous dit, mais quand on va en Grande-Bretagne, on ne voit jamais de châteaux d'eau. Alors pourquoi ?
Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'André pourrait vous répondre.
Attendez, pardon. Attendez, monsieur Levaux, j'arrive.
Oui.
Monsieur Levaux, allez-y.
Disons, le développement des machines élévatoires, quand même, est fondamentalement à partir de l'époque moderne. Il y en a
non, bien sûr. Mais...
Oui, ah bah oui.
Mais il y a des machines élévatoires
à l'époque antique. Bien sûr, ça c'est clair que là, c'est plus ancien.
Vas-y, André.
C'est peut-être une question du coût de l'électricité, puisque donc en France, les réservoirs sont élevés parce que ça permet de stocker l'eau.
Oui.
Et de la faire pomper la nuit,
oui, tout à fait.
Pour la distribuer le jour, alors qu'en Angleterre, peut-être que l'électricité est moins chère Et au départ, en tout cas, les réservoirs sont en périphérie de la ville.
Quand je parle, par exemple, du cas de Liverpool, avec le barrage de Wernowee, excusez ma prononciation du gaélique, il n'empêche, si vous voulez, que c'est quand même des installations hydromécaniques. Et c'est seulement, si vous voulez, plus tard, par exemple, dans le cas d'Amiens, l'usine de 1935-36, elle fonctionne à la fois en électrique et en hydromécanique. Ça, c'est quand même caractéristique de l'aménagement. Et puis, par exemple, pour les installations élévatoires destinées à la navigation, et notamment celles qui sont installées sur l'Aisne, là, c'est vraiment encore à nouveau, dans les années 30, un système qui est mixte, à la fois électrique et encore en mécanique. Voilà. Mais on continue toujours d'utiliser la rivière, puisque ça va durer jusqu'ensuite à l'électrification de ce type de station de pompage au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà.
Merci beaucoup, M. Benoît, et d'avoir fait l'aller-retour Paris pour venir nous voir, etc. Non, vraiment, on est...
Aussi succinct.
Non, pas du tout, de toute façon... Oui, parce que vous avez pris rendez-vous pendant le repas. Il y a un prochain colloque à Ivry, un colloque à Ivry sur l'eau, M. Benoît. Oui.
C'est ça, c'est ce que tu vas faire. Je présente Madame Virol, qui est la spécialiste professeure à l'Université de Rouen et qui est donc la grande spécialiste de Vauban et des fossés de fortification et de la défense des fossés et de l'art militaire, la polyurcétique.
Oui. Bon, mais merci. Je dirais que je suis plus spécialiste de Vauban, ce qui fait que je suis un peu en marge peut-être aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup parlé de technique, de lieux, et moi, mon entrée, c'est Vauban, c'est-à-dire une personne et la palette de ses interventions en matière d'hydraulique. Donc, c'est une entrée complètement différente, et pour montrer que je ne suis pas que bordelaise, c'est la Loire, voilà, ici. Je le dis, la suite de la conversation. Voilà. Donc, ma communication est centrée sur un personnage qui est quand même marquant aussi du XVIIe siècle, l'ingénieur de Louis XIV, qui est surtout connu pour ses interventions militaires. Vous avez ces dates, 1633-1707. Mais je ne vais jamais trouver... Voilà. Mais lorsque Fontenelle fait son éloge à l'Académie des sciences en 1707, au moment de sa mort, il insiste notamment sur les interventions, les rêves de Vauban en matière d'hydraulique, essayer de couvrir le pays de ponts, de navigation nouvelles. Et il termine en insistant sur le fait que ce sont des songes, qu'il n'a pas vu toutes les réalisations. Mais cependant, on va essayer de voir les réalisations que Vauban a pu connaître. Alors, c'est un ingénieur. Et quand on reprend les gravures de Nicolas Lamsin, qui représente les métiers en 1695, voilà comment est représenté l'ingénieur. Donc, on peut dire que c'est la base du travail... du travail de l'ingénieur militaire, c'est-à-dire donc dessiner et ensuite tracer sur le terrain les fortifications, construire mais on a assez peu de mentions sur cette gravure des travaux hydrauliques. Et pourtant, Vauban, qui a dû construire, a dû forcément bâtir des fortifications sur des terrains humides. Donc, il s'est confronté à ce type de difficultés. Si on regarde, vous mentionnerez que quelques-unes de ses interventions, une des premières à Sainte-Menehould, on voit bien que pour fortifier un tel site, il faut réfléchir à la circulation de l'eau et tenter de l'apprivoiser pour avoir une fortification efficace. Sa grande réalisation, la citadelle de Lille, a nécessité aussi des travaux sur la Deule, des aménagements, des détournements, des captations. J'y reviendrai après. Et que dire du barrage sur la Gironde ? Blaye et cette île qui est née au XVIIe siècle, Fort Pâté, au centre de la Gironde, et Fort Médoc, il a fallu effectivement aussi travailler sur, et il a eu toute une réflexion sur les marées, les courants, pour arriver à bâtir une batterie au centre de la Gironde. Dans ses archives, on trouve de très nombreux documents qui montrent son intérêt pour l'hydraulique et notamment sonde de la Garonne. Il fait travailler ses ingénieurs pour ses relevés. On a des relevés sur la force, sur le Rhin. Il fait sonder beaucoup de cours d'eau. Donc, ceci montre que ça faisait partie de son travail quasiment quotidien. Donc, que dire de ces grands travaux pour des fondations en milieu humide. La référence, c'est surtout les travaux de la place de Strasbourg, travaux qui l'ont amené à rédiger un mémoire sur la méthode manuelle de creusement des fondations. C'est-à-dire chaque fois qu'il se confronte à des difficultés, bon, que ce soit pour la construction ou pour l'hydraulique, il tente de normaliser à un moment les pratiques. C'est-à-dire, après avoir vu ce qui fonctionne, sans chercher vraiment à innover, il n'y aura pas vraiment d'innovation, mais il vérifie et après il donne toutes les consignes aux autres ingénieurs de manière à généraliser sur l'ensemble du territoire les techniques qui ont pu faire leurs preuves. Donc on a en 1681 cette méthode manuelle et pour l'autre grand chantier, celui de Toulon et de l'Arsenal, il est quand même remarquable que c'est pratiquement un des rares chantiers où on a vu qu'il recommandait l'usage des machines parce que Vauban a très peu utilisé les machines, mais là c'est un reflet aussi, ce que je voulais dire en introduction, de son adaptation. Il parcourt tout l'Hexagone et chaque fois qu'il voit des pratiques qui sont efficaces, il les adopte. Dans le sud de la France, on utilisait les machines. Il les a aussi utilisées pour Toulon. Donc, il connaît les ouvrages qui ont pu être édités sur les écluses, que ce soit la tradition nordique ou la tradition italienne. Donc, les écluses, il va aussi en construire. Il ne va pas vraiment innover, mais il a lu aussi ses classiques, il a lu Bernard Palissy, et en tant que fortificateur, il va devoir construire des fontaines, et là, il va suivre tout à fait des citernes pour les places fortes, et il suit tout à fait les applications de Palissy. Donc, ce n'est pas un innovateur, et je voudrais voir en mentionnant que un travail aussi a été fait plus spécifiquement, et je trouve que c'est un travail de qualité, celui de Raffarin Moreira, qui avait fait Mémoire de maîtrise sous la direction de Paul Benoît, qui s'est intéressé à Vauban hydraulicien et qui avait fait une étude très bien documentée. Bon, moi, j'ai d'autres sources et une autre approche, mais je voulais signaler ce travail. Donc, je verrai l'eau tout d'abord. Alors, voilà le type de réalisation que l'on doit à Vauban pour montrer en termes d'écluses. Donc, premier point, l'hydraulique militaire. La préoccupation essentielle de Vauban, c'est bien sûr la défense. Donc, l'eau, toujours conçue comme un élément naturel des défenses, est largement utilisée au XVIIe siècle et Vauban a pu observer à ses dépens l'efficacité de l'inondation des fossés de Gravelines quand les Espagnols ont ouvert les écluses pour noyer les abords de la place, alors qu'il en était, lui, c'était pratiquement un de ses premiers sièges. Donc il n'a cessé, après cela, dès 1658, d'observer ce que les Espagnols avaient mis en place, mais aussi ce que les Flamands et les Hollandais, après, avaient construit pour tenter de l'adapter chaque fois aux places qu'il avait à construire. Donc, dans ses lectures, la référence importante est celle de Simon Stévin, « Nouvelle manière de fortification par écluse » paru à Leyde en 1618. Donc, il a, dès qu'il construit, et c'est le cas notamment pour Lille, il doit alimenter bien sûr les fossés de la fortification. Il organise à Lille une large canalisation souterraine, des vannes qu'il nomme écluses et des bâtards d'eau pour élever le niveau d'eau des fossés, des chemins couverts. Donc, il organise un collecteur sous le centre de la place et il va dériver une partie de la Deule pour établir des moulins et constituer des réservoirs placés sous le contrôle de la citadelle. Mais chaque fois, il s'est heurté à l'utilisation de l'eau telle que les habitants de l'île le souhaitaient et les besoins de la défense. Il est évident qu'il faut souligner que pour Vauban, la défense est première. Donc, bien sûr, il prend en compte toutes les réclamations des populations et chaque fois qu'il le peut, il va faire respecter notamment les moulins et l'usage des moulins. Mais la pratique, c'est que la navigation dans une citadelle ne doit pas pénétrer à l'intérieur de la citadelle. On doit s'arrêter aux portes. Donc, ici à Lille, c'est son premier travail, vraiment la construction de la citadelle de Lille, il avait établi ce qui sera ensuite toute sa pratique en matière d'hydraulique pour les fortifications. Donc, ne pas permettre à la navigation d'entrer ou de gêner la défense, prévoir le ravitaillement en eau à l'intérieur de la citadelle pendant le temps supposé des sièges. Donc, essayer de trouver toutes les formes de ravitaillement pour constituer des réserves d'eau. Donc, l'essentiel de la maîtrise de l'eau en matière de défense, ce sont les inondations. Donc, il l'avait observé à ses dépens. Il sait très bien que les Hollandais, quand les Français ont tenté la conquête des Provinces Unies en 1672, en dernier recours, les Hollandais ont ouvert les digues et inondé leur pays. Donc, il sait pertinemment que c'est... les Français doivent maîtriser aussi, pour le nord de la France, bien évidemment, c'est des grandes régions de plaine, les inondations. Donc, dans ces archives, on trouve beaucoup d'expérimentation des inondations. Lui-même assiste à un bon nombre. Il fait mesurer les profondeurs, les temps des inondations, et ensuite, il livre la carte et il mentionne lui-même... à Louvois qu'il faut lire la carte avec l'extension maximale de l'inondation et bien lire les profondeurs. Donc, très nombreux essais, il laisse des ingénieurs qui vont aussi réaliser cela aux grandes dames des paysans qui, bien sûr, ne voient pas d'un bon œil ce type d'inondation. Et il rédige un mémoire, notamment pour Audenarde, qu'il appelle Audenarde, mémoire pour servir à la conduite des eaux en cas de siège, qui devient le mémoire de référence pour les ingénieurs qui ne connaissent pas les inondations, ou en tout cas qui doivent se conformer à ces directives. Alors, il en profite aussi donc, pour tenter d'évaluer les ressources en eau d'une place, non seulement pour les inondations, mais aussi pour éventuellement connaître plus précisément les quantités d'eau de pluie. Et ce qui est intéressant pour l'île, notamment, bon, le document n'est peut-être pas très, très bon, j'ai retrouvé la quantité donc, d'eau tombée. Il fait des relevés, il fait faire des relevés par semaine des quantités d'eau tombée. Et j'ai retrouvé après, à l'Académie des sciences, les travaux de Lahir, qui faisait pour Paris à l'Observatoire. Et d'ailleurs, les deux hommes se sont rencontrés, ont sûrement échangé sur les résultats. Mais disons qu'ils cherchent les moyens scientifiques ou plus sérieux d'évaluer les ressources possibles d'une place, hein, puisque là est la question importante. Dans les inondations, le summum de sa réussite technique, et là je cite Bélidor, la science des ingénieurs, qui est la grande référence du XVIIIe siècle, et qui prend comme exemple les travaux de Vauban à Dunkerque, qui joue en fait sur trois niveaux, déjà sur les marées, arriver à drainer une partie des eaux des marées, canaliser, dompter la rivière la et la mer. Donc il joue sur les marées en créant ce qu'il a appelé le risband, hein, cette avancée intérieure de la mer qui sert en fait aussi qui va chasser l'eau, hein, qui restera dans les fossés. Belle réussite technique que les Anglais se sont empressés de détruire dès qu'ils ont récupéré après le traité d'Utrecht, parce que là, c'était véritablement une menace. Donc, il nous reste les plans, il reste ce que Bélidor a pu écrire, mais bon, malheureusement, nous ne l'avons plus, mais c'était là. Voilà ce que Bélidor donne, hein, dans l'architecture hydraulique. Qui devient vraiment la référence des ingénieurs à partir de 1737. Alors, l'hydraulique militaire, pour Vauban, c'est aussi jouer des cours d'eau pour renforcer le précaré, renforcer les frontières que lui n'appelle pas frontières, comme beaucoup de ses contemporains, mais qu'il appelle limites. Et dans cette stratégie, il considère que la France, notamment pour le Nord, hein, tout ce qui est le précaré, c'est-à-dire la double série de 13 fortifications qui doit faire une double barrière, on devrait installer, il écrit à Louis XIV en ce sens, des lignes, c'est-à-dire les cours d'eau qui servent de frontières et qui sont équipés de postes avec 500 à 600 hommes chaque fois. Et il fait toute une démonstration selon laquelle les fortifications coûtent trop cher. Les fortifications de maçonnerie, ces grosses pièces lourdes, la France n'a plus les moyens de se les offrir. Donc il veut jouer sur l'eau et il considère que l'eau est une barrière beaucoup plus redoutable pour les ennemis, surtout si on a des postes très réguliers. Et c'est surtout la mobilité qui est ici conçue, la possibilité de faire naviguer non seulement les hommes, mais aussi les munitions, l'artillerie, ravitailler les différents plans. Donc, il y a dans sa pensée, il y a une évolution très, très nette avec une omniprésence de l'eau, même dans sa conception de la défense, hein, pour la partie nord. Donc, mais Vauban devient un usager de l'eau, si j'ose dire. C'est là que je replace l'homme. Il tente, malgré les interdictions de Louvois, de prendre le plus souvent possible la voie d'eau pour se déplacer. Et comme il est toujours par Mons et par Vaud, il a pu essayer notamment de naviguer sur le Rhône, de naviguer sur la Durance, et bon, au grand dam de Louvois qui lui a interdit de prendre le bateau, c'est trop dangereux. Mais prendre le bateau et les cours d'eau, c'est aussi mener une réflexion économique pour lui, c'est-à-dire que, considérant que les chemins de terre étaient vraiment trop mauvais, n'étaient absolument pas carrossables, il se livre progressivement à un calcul de type économique. Si on investit dans les voies d'eau, la rentabilité sera supérieure parce qu'on pourra, ça coûte moins cher en fait de naviguer par eau, on n'a pas besoin d'utiliser d'animaux de trait, et il considère que c'est, sauf pour le halage, hein, mais on en utilise beaucoup moins qu'on en utilise dans les charrois, et il considère qu'il faut laisser les animaux de trait aux paysans, Et donc, ça serait une façon d'améliorer aussi la communication. Donc, ils se livrent à des calculs économiques sur ces deux types de transports, et il affirme clairement que le transport fluvial est à préférer. Donc il encourage le roi à investir dans les aménagements fluviaux. Il a lui-même, dès qu'il fait construire une fortification, va chercher à ouvrir un canal pour amener les matériaux. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il applique directement. Quand il y a une place forte qui est construite, pensez à l'aménagement de Strasbourg, il va, c'est son l'ingénieur Regemont qui va faire construire le canal de la Bruche, qui va permettre d'amener le grès des Vosges à Strasbourg. Et il va multiplier, il y aura le canal de Neubrisac, le canal de Landau. Donc il utilise la voie d'eau, il démontre qu'en fait la voie d'eau est préférable. Mais Louvois, qui connaît parfaitement ses capacités en matière d'hydraulique, va lui demander, ça ce sont les canaux, voilà le plan du canal, enfin la carte dans ses archives du canal de la Bruche qui permet d'amener donc le grès des Vosges à Strasbourg. Mais donc Louvois va lui demander d'intervenir sur des grands chantiers hydrauliques civils. Et c'est la grande question qui se pose dans les années 1680. On a parlé tout à l'heure de la machine de Marly, mais c'est la question du ravitaillement en eau des jardins de Versailles. Bon, la machine de Marly... que Vauban allait voir, il faut dire qu'il logeait assez souvent chez sa fille, la marquise d'Ussé, qui avait un château à Louveciennes, et il dit, il parlait du bruit que faisait la machine, il allait la voir, il disait c'est très coûteux, il faut beaucoup de personnel pour entretenir jour et nuit, il faut réparer toutes les palettes qui s'usent. Donc il est intervenu, il a donné un projet d'écluse pour l'aménagement de la machine de Marly, et on l'a sollicité aussi pour le troisième projet après les différents étangs qui ont été et la rivière royale qui a alimenté une partie des eaux de Versailles grâce à l'hydraulique gravitationnelle qui a été, dominé aussi par la réflexion des académiciens des sciences. Et les académiciens des sciences, notamment Lahire, qui cherchait d'autres solutions, parcouraient le pays et ont trouvé que la rivière Eure coulait beaucoup plus haut que Versailles. D'où l'idée de détourner une partie, de creuser un canal et de détourner une partie de l'Eure pour amener... L'eau à Versailles. Donc Louvois, qui est en 1685 surintendant des bâtiments, qui n'a pas laissé son nom à un ouvrage magnifique, il succède à Colbert, va soutenir un projet grandiose. Et donc, quand on parle de détourner les eaux de l'Eure, on fait appel immédiatement à l'Académie d'architecture pour voir comment tenter de résoudre un des problèmes. Alors voilà, ça, c'est Manson Mallet sur la machine de Marly. Et voilà le tracé du canal de l'Eure. Il s'agissait de capter une partie des eaux à Pongouin, et d'amener par un canal l'eau en passant au pied du château de Maintenon que Louis XIV venait d'offrir à Madame de Maintenon, qui est devenue son épouse en 83. Donc c'était aussi rendre gloire à Madame de Maintenon. Et un passage s'avérait assez difficile, c'est une vallée, la vallée de la Risse. Donc un dénivelé important, et là... Louvois avait dans la tête de faire construire un aqueduc. et notamment un aqueduc grandiose. Donc il s'adresse à Blondel de l'Académie d'architecture qui lui dessine un aqueduc qui ressemble au pont du Gard. C'est donc l'œuvre d'un Romain, Louis XIV étant assimilé, encore une fois, à César, etc. Bon. Mais Louvois appelle les ingénieurs. Il appelle Vauban, il appelle les ingénieurs Mégrini, enfin, tous ceux qui, font le, qui sont autour de Vauban, et il lui demande quelle est aussi sa solution pour passer la vallée de la Risse. Vauban propose, lui, un système de canalisation, et pour passer la, la vallée, ce qu'on appellerait aujourd'hui des siphons, qu'on n'appelait pas à l'époque des siphons, et qu'il, est, qu'il considère comme, comme efficace et nettement moins coûteux. Alors, dans ses mémoires, il montre que, bon, il ferait passer les canalisations sur des talus, talus de terre, et après, il propose ce système de siphon. Louvois n'est absolument pas, d'accord. Il y a un grand, bon, il y a des échanges, mais qui sont complètement pipés. Louvois s'abrite derrière l'argumentaire des académiciens des sciences en disant que Vauban n'a absolument rien compris, que c'est complètement... il ne maîtrise pas du tout la technique. Et d'autre part, comme le roi a décidé que ça serait, la, ça serait un aqueduc magnifique, il fallait qu'il abandonne son, son projet. Donc, il est obligé de se... Il est obligé, de, obligé d'obéir et il va organiser, le chantier. Donc, au départ, le projet qui devait donc, être un canal de 83 km pour relier Pongouin à la rivière royale avec une pente en moyenne de 15 cm au kilomètre, hein, si je le ramène à nos mesures actuelles, ce canal va finalement être réduit. Pourquoi ? Parce que les difficultés rencontrées par, d'abord par les finances royales, ça a d'abord coûté tellement cher qu'on avait épuisé pratiquement le crédit. Quand on arrive dans la construction de l'aqueduc, on commence à faire, en face du château, on commence à faire les arcs. Mais pour passer la vallée de la Risse, il n'y a pratiquement aucune possibilité de passer cette vallée par un aqueduc. Résultat, on demande à Vauban de faire ses siphons. Il a réalisé une partie de ces siphons qui ont été retrouvés par une mission d'archéologues. Ils ont retrouvés en bon état. On a les plans, nous, on ne les a pas. Ils sont à Stockholm. Ils sont aux archives de Stockholm. On les a donnés. Bon. Et le, mais disons qu'une partie de la situation a été... bon, a, techniquement, avait été réglée. Sauf que ce que Vauban avait dit, à savoir que... Vous trouvez les termes... de la qualification de l'aqueduc par Vauban, trop massif sans raison, cet ouvrage n'ayant apporté que soi-même, arcade toutes inégales et trop ouvertes, et par conséquent difficile et de grandes dépenses à cintrer, aqueduc trop étroit pour le courant des eaux et peu de pente, point de garde-fou, vilain aspect s'il en est. Bon. Et il avait prévu que ça coûterait trop cher et que ça durerait trop longtemps. Comme on fait appel aux soldats pour faire tous les travaux de terrassement, vous imaginez qu'il y a eu 12 000 soldats dans cette vallée de l'Eure, ajoutés à 10 000 civils qui faisaient le travail. 1600, on commence 1685, 1686, 1688, c'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Les soldats doivent quitter le chantier, partir sur la frontière de l'Est, et il ne reste que quelques civils, pratiquement sans argent. Le chantier va être quasiment fermé en 1690. Et voilà ce qui reste maintenant de ce canal de l'aqueduc de maintenant. Donc, heureusement qu'on a les travaux archéologiques qui permettent de montrer que, bon, l'état de ces techniques, mais bon. Alors, ce chantier, donc, qui est un échec, n'a pas empêché, Vauban, je ne fais que le mentionner, d'aller après, sur le canal du Languedoc, envoyé par Louvois, qui lui demandait de remédier aux inconvénients des travaux de Riquet, parce qu'il y avait ensablement du canal, il n'y avait qu'un réservoir qui était insuffisant, donc il a laissé une trentaine d'ouvrages d'art, notamment des ponts-canaux, il a creusé un deuxième réservoir, et il a fait le projet de relier le canal jusqu'à Sète, hein, et de Sète à Oron. Donc il y a tout un projet, mais bon, les guerres ont fait qu'il n'a pas pu, il a aménagé Sète, mais il n'a pas pu continuer. Donc l'hydraulique civile, il a surtout contribué par ses écrits à montrer l'importance qu'on devait attacher à l'hydraulique. Alors dans ses mémoires, dont une partie ont été rassemblées par ses soins sous le titre de oisiveté, on trouve ce mémoire sur le canal du Languedoc, qui n'est pas vraiment un mémoire technique, c'est un mémoire, une réflexion sur ce que peut apporter une voie navigable raisonnablement aménagée. Oui. Dans ce mémoire, il insiste, quand on parlait tout à l'heure du partage bord de tout le monde voulant être au bord de la rivière, il suggère à Louis XIV de demander à tous les riverains de participer à l'aménagement, et surtout de ne pas le donner à des privés qui feraient payer des péages, qui nuiraient complètement à la navigation. Autre mémoire, la navigation des rivières, et là c'est la conception générale du territoire français qui serait entièrement aménagée en faisant communiquer tous les bassins hydrographiques par des systèmes de canaux, de manière à désenclaver les provinces et faire que les provinces pauvres soient alimentées par les provinces riches, notamment en grains. Voilà ce qu'il dit notamment, hein, procurer la navigation aux rivières qui en sont capables en prolongeant celle de toutes les grandes vers leurs sources. Donc il y a un vaste projet, il n'entre pas dans le détail, mais pour lui il s'agit de rendre pratiquement toutes ces, c'est ce que Anne Blanchard a fait dessiner, a cartographié, hein, le projet de Vauban lorsqu'il entre dans les détails. Mais son objectif, c'est de tout rassembler. Ce qui est pour lui très important, c'est l'aménagement des rivières et canaux du nord de la France. Et il va, là on a quelques planches, hein, qui permettent de connaître les différentes coupes ou profils de ces canaux. On peut rentrer un peu plus dans le détail. Voilà les écluses aussi, hein, très, je vous montre. Mais le grand projet de fin de vie, son idée, c'était de relier la Lys, la A, à la mer. On lui avait refusé. En 1705, il n'a plus rien à perdre, il est maréchal, il n'a plus de fonction militaire, on ne veut plus l'envoyer, il est trop vieux. Donc il part lui-même sonder une partie des rivières, et il amène avec lui les représentants des villes, les magistrats des différentes villes, pour essayer de les convaincre de la nécessité d'investir dans les travaux hydrauliques pour rendre la navigation, donc, de toute cette partie nord, hein, de la Flandre. Et ce travail lui a valu non seulement des lettres incendiaires du ministre de tutelle à qui il n'avait pas demandé l'autorisation, mais il faut dire que les travaux qu'il avait prévus ont été réalisés en partie au 18e et l'autre partie au 19e. Donc voilà, je vais terminer parce que je suis juste dans les temps. Je voulais juste vous signaler que le Vauban ayant à travailler sur l'hydraulique, a vu toutes les possibilités, et on peut dire qu'en fin de vie, c'était plus nécessairement la défense, mais c'était plus améliorer l'économie du pays, hein, puisque l'argent est le nerf de la guerre, de manière à pouvoir mieux assurer, on pourrait dire, les revenus de la France et mieux la défendre. Et la navigation et la voie d'eau étaient la principale. Là, c'est le petit clin d'œil, parce que dans ses manuscrits, il y a ce petit dessin. Et voilà. Merci.
Merci. Merci. Ben, c'était très, très instructif et très... très beau moment. Mais à propos de ces fortifications de Dunkerque, il emploie bien, pour ses ingénieurs, il parle de la bande d'Archimède, de sa bande d'Archimède.
Oui, sa bande d'Archimède, oui.
C'est quand même assez extraordinaire qu'il compare ces hydrauliciens, enfin, ce n'est pas des hydrauliciens, des gens qui travaillent sur l'eau à des Archimèdes.
Oui.
Donc ça veut dire qu'il a quelque part une conception scientifique de l'eau,
oui.
Qui est proche de Mariotte, qui est proche de l'Aïr et tout ça.
J'ai voulu chercher est-ce qu'il avait j'ai pas trouvé Mariotte Picard j'ai pas trouvé Mariotte, il connaît l'ouvrage, mais j'aurais voulu trouver plus de liens, mais non, les archives ne permettent pas d'aller
Huygens,
plus loin.
Il a pas de relation avec
non
Huygens.
Non, mais Il assiste aux réunions de l'Académie des sciences, puisqu'il rentre à l'Académie des sciences comme membre honoraire à partir de 1699, et il lit les comptes rendus.
J'avais une autre, enfin, quelque chose aussi qui est important, ce que vous avez dit à propos de la fortification, c'est-à-dire la fortification dépend, si je comprends bien, de la position, si on est en position d'attaque ou en position de défense. Si on est en position de défense, il faut qu'il n'y ait aucun accès donc à la place, aucun accès terrestre, parce que justement l'ennemi peut venir par là, etc. Et donc on rase tout de telle façon à ce qu'on puisse le voir et qu'il n'ait aucun accès à la place. Mais en revanche, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y ait une voie d'eau. La voie d'eau permet d'abord de freiner l'avance de l'ennemi, puisqu'on fait des inondations, etc. Et en plus, on peut transporter facilement des choses jusqu'aux abords de la place. Mais quand on est en situation d'attaque, il faut au contraire donc multiplier les voies de communication, de telle façon à pouvoir assiéger plus facilement l'ennemi, et multiplier aussi les voies de communication terrestres et hydrauliques.
Oui. Et il faut se munir de fascines, parce que l'idée, c'est que si l'inondation a été mal faite, avec des fascines, on avancera ou on fera des ponts, des ponts flottants.
Et alors, donc, là, une des choses qui... peut-être, moi, j'ai étudié un peu plus la fin du 18e. Effectivement, Vauban définit ces fameuses lignes d'eau, les trois ou quatre lignes d'eau, et ça va être Fourcroy-Drâmecourt et la fuite de Clavé, qui vont faire tout ce réseau du nord de la France et qui va servir encore, y compris en 1870, parce qu'il y a eu un certain nombre d'inondations qui ont été faites. Donc c'est un système qui a été pensé et qui a vécu 300 ans.
Oui. Mais ça, les inondations, il ne faut pas croire qu'ils se contentent seulement de faire des inondations. Ils prévoient dans la superficie qui peut être inondée des digues aussi. Ouais. Hein, et on mesure bien la profondeur. Il faut que les assiégés puissent circuler et approcher éventuellement même de l'artillerie dans ces zones. Donc il faut jouer... faut placer les digues au bon endroit, etc. C'est tout un système quand même assez complexe que les Hollandais ont parfaitement maîtrisé.
Oui, en particulier, Vauban les a eus quand même une fois. C'est que, je ne sais pas, je crois que c'est le siège de Maastricht où les Hollandais s'étaient protégés derrière des inondations et il a fait très froid, ça a été gelé et donc Vauban a assailli, enfin vaincu la place en deux coups de cuir à peau.
Oui, c'était pas Maastricht, parce que Maastricht, c'était en plein été. Enfin, mais bon, oui.
Une des batailles célèbres où il a emporté, où les Hollandais ont tiré.
Oui.
Moi, j'étais intéressé à ce que vous avez dit sur l'aqueduc de Maintenon, parce que j'avais connaissance de cet aqueduc par l'histoire des techniques de Doma, où il est présenté comme... Alors, moi, j'ai cru qu'il avait été réalisé comme permis justement par la fonte, par les tuyaux, parce que le problème, donc, c'est de faire un siphon. Alors, je m'y intéressais par rapport à la technologie antique, parce que donc, la technologie antique, on utilise soit des tuyaux de pierre, soit de plomb. Et donc, dans le cas de l'aqueduc de Maintenon, il était question de tuyaux de fonte qui auraient permis. Donc, en fait, il n'a jamais été réalisé.
Il y a une... Alors, Vauban, en général, utilise très, très peu les tuyaux de fonte. Dans les fortifications, il préfère assez souvent le bois. On en voit encore à Mont-Dauphin, en Mélèze, les arrivées en bois. Parce que la fonte, il considère qu'en cas de siège, par exemple, s'il y a une défaillance dans les tuyaux, on n'a personne vraiment pour réparer. Donc, alors qu'on a une main-d'œuvre pour réparer les canalisations en bois. Mais à Maintenon, la particularité, c'est que pour contrecarrer Louvois, il propose d'utiliser de la tuyauterie en fonte. Et Louvois lui dit, mais ça va coûter très cher. Donc, comme Louvois ne voulait pas accepter, mais il y a une partie qui a été
réalisée.
Oui.
Voilà. Non, ça mériterait d'être repris comme étude, parce que cette controverse, pour moi, ça évoquait toutes les controverses sur la construction de l'aqueduc de Marseille, dont on a parlé ce matin, et en particulier la construction du pont de Roquefavour qui mit le pont du Gard, parce que donc il y a tout un challenge de la part des ingénieurs sur ce fameux mythe du pont du Gard qu'on veut égaler, et donc la solution après, des solutions intermédiaires qui sont adoptées. Donc au niveau historiographique, c'est quelque chose qui est intéressant. Vous avez écrit quelque chose là-dessus ou c'est...
Oui, il y a eu un ouvrage collectif sur Vauban et les voies d'eau, mais bon, l'éditeur n'édite plus. Hein, bon. Et oui. Mais il y a les travaux des archéologues, j'ai oublié le nom là, mais il y a une équipe qui fait un travail très intéressant, et vous avez tous les comptes rendus qui ont été laissés au château de Maintenon, où ils font régulièrement des expositions sur l'aqueduc. Mais au passage, pour les techniques, c'est sur ce chantier que Vauban a recommandé l'usage du charbon de terre. On l'utilisait assez peu, et il a obtenu de faire venir du charbon d'Angleterre pour le chantier, ce qui est un des rares cas où il va utiliser le charbon de terre.
Je voudrais simplement apporter quelques compléments, puis répondre surtout à Philippe, à savoir que les tuyaux de fonte qui permettent de faire passer une quantité d'eau beaucoup plus importante que le tuyau de plomb, parce que le tuyau de plomb, dès que tu... Si on comprend, il faudrait mettre une épaisseur de plomb de 5 cm, bon, ça pèserait des tonnes. Donc, ils ont été utilisés à Versailles. Ils sont actuellement tout à fait visibles. Si on fait une visite du château de Versailles, c'est pour moi intelligente, hein, on les trouve, ils amènent l'eau, c'est à la chute d'eau, enfin, la descente de l'eau, qui provient de la pompe de Marly. Hein. Là, il y a des tuyaux, des gros tuyaux. C'est la première fois au monde, sans doute, tout au moins en Europe occidentale, je ne sais pas ce qu'ont fait les Chinois, hein, qu'on utilise des tuyaux de ce diamètre-là. Auparavant, les Anglais avaient fait des tuyaux de fonte, mais beaucoup, beaucoup moins importants. C'est donc les gros tuyaux de fonte. Alors, ils ne sont pas très grands. Il faut boulonner beaucoup d'éléments. Ils sont là. Donc, il y avait déjà à Versailles une certaine habitude, une certaine maîtrise de la fonte. Ça, c'est certain. Ça a été bien étudié. Il y a même les métallographies ont été faites là-dessus. C'est pour ça que je serais...
Éric Soulard.
Soulard. Et puis, il y a la publication aussi de... Et c'est Dillmann qui a fait les analyses, c'est une publication qu'il a fait avec Louis André, hein, quand il a fait le cahier de l'inventaire sur les Ardennes, parce que c'est de la fonte qui venait des Ardennes. C'est des choses qui sont bien cadrées maintenant, même si ce n'est pas connu forcément de l'humanité entière. En ce qui concerne le charbon, ben encore Soulard avait travaillé là-dessus, hein, puisque à Versailles, c'est dans un article qui est paru dans un colloque qu'on avait fait à Liège sur... Vous l'avez pas, sinon je vous l'envoie. Donc Soulard avait fait regarder ça d'assez près. Et on a
hein, tout à fait nettement. Dans tout ce qui est château de Versailles, on a de la chaux qui est faite avec du charbon de bois. Et on retrouve des scories de charbon de terre, de chadouille, hein, dans tout ce qui est aduc de Maintenon. Alors là, il y a vraiment deux oppositions de matériaux assez nets, de combustible, d'énergie, on va dire, hein, entre ces deux aspects, ces deux secteurs.
Mais là, bon, il y a vraiment eu un débat technique. Et Louvois, ce qui est intéressant, Louvois s'abritait derrière les académiciens des sciences pour dire que Vauban ne maîtrisait pas bien les techniques.
Je suis d'accord avec Philippe. Il y a Louis XIV derrière, et oui, on connaît, hein, la manière dont Louvois manœuvrait avec Louis XIV. Il n'était jamais en désaccord. Vauban n'avait pas peur. À cet âge-là, il s'en fichait un peu. Hein, on est près de la dîme royale. Et donc, là, c'est l'argumentation de Louvois. Moi, je la vois vraiment très malhonnête. Hein.
Oui, absolument. Je suis d'accord.
Je disais qu'il y avait la même malhonnêteté dans les débats dans les ingénieurs sur l'aqueduc de Marseille. Oui, de Montrichet était de parfaite mauvaise foi. Mais c'est lui qui l'a emporté parce que c'était le meilleur ingénieur.
On pourrait faire l'étude des chantiers comme ça.
Oui, c'est intéressant.
Celui
mais
qui l'a emporté.
Parce que ça peut avoir des échos là, sur des comportements. Non, moi j'ai dit ça, c'est parce que ça intéressait les questions d'archéologie antique, parce qu'il y a un tunnel sous le bateau de Venelle que les gens n'ont jamais voulu prendre en compte parce que de Montrichet dit qu'il n'existait pas, alors qu'ils ont fait des sondages archéologiques au 19e siècle pour l'utiliser. Il existe. Il fait 7 km de long. Voilà.
Monsieur Grabert, merci. Merci Michel.
Ben, je suis content de voir M. Frédéric Grabert, que je ne connaissais, mais que j'ai entendu parler. Vous êtes donc allé à l'EHESS, c'est ça?
Oui, je suis CNRS, mais je travaille à l'EHESS, oui.
D'accord. Et, bon, donc, et puis, vous allez nous parler de la distribution de l'eau et de la...
Oui, c'est plutôt de projets d'adduction d'eau. D'accord. Pour Paris, 18e, 19e. Je vais surtout parler de la fin du 18e siècle, là, dans cette... voilà, donc je vais prendre un angle d'attaque sur cette question de l'eau qui est un peu plus politique, disons, pour faire court, sur deux questions qui sont en gros l'une dans la rhétorique des projets, comment on convainc que c'est la bonne chose à faire du point de vue de la notion des besoins en eau, qui est une catégorie de l'action publique qui va devenir très importante à partir du XVIIIe siècle, et puis de l'autre côté, du côté de ceux qui vont plutôt souffrir des adductions d'eau, sur la question des expropriations. Alors, je vous fais une très brève introduction qui rejoint plusieurs choses que vous avez déjà entendues sur l'eau à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Ceci est un plan des réseaux de fontaines à Paris à cette époque. Ces fontaines sont principalement alimentées d'abord par des aqueducs. Certains datent du Moyen-Âge et sont très faiblement importants. Le plus important est l'aqueduc d'Arcueil qui arrive au sud de Paris. Un certain nombre de pompes donc installées sur des ponts, principalement donc la Samaritaine sur le pont Neuf et la pompe Notre-Dame sur le pont de le pont principal de l'île de la Cité. Et puis, à partir des années 1780, donc deux grandes pompes de machines à vapeur qui sont installées donc dans le cadre de l'entreprise des frères Perrier, d'abord à Chaillot, puis au Gros Caillou. Alors, si on présente la chose comme ça, on a l'impression que, ben oui, nous avons une ville qui ressemble à la ville contemporaine avec des fontaines qui amènent de l'eau dans la ville et que c'est ça l'essentiel de la consommation. Alors, pas du tout. Les fontaines représentent une très petite partie de l'eau qui est effectivement consommée. C'est très schématique, là, ce que je vous donne en proportion. Les puits incluant en partie ici les citernes. Les citernes étant quand même nettement moins utilisées dans le nord de la France que dans le sud, mais elles sont quand même présentes. Récupération d'eau de pluie, etc. Tout ça existe là aussi, bien qu'en quantité moindre. Donc, si vous vous intéressez à ce qui constitue l'essentiel de la distribution d'eau à Paris, ce sont des porteurs d'eau dont certains sont à pied. Là, ils peuvent récupérer en partie de l'eau des fontaines, donc c'est un peu plus compliqué comme division, et pour des volumes plus importants à charrette. Alors, ce qui m'intéresse, c'est un topos historiographique qui est répété par à peu près tous les historiens qui ont travaillé sur l'eau à Paris au XVIIIe siècle, et qui est de dire que Paris est une ville où on manque d'eau. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, certes, le XVIIIe siècle est une époque d'eau rare et chère, avec des usages qui sont évalués par toutes sortes de techniques, par les différents historiens, entre 5 et 20 litres par jour. Et que ce manque d'eau se retrouve surtout en fait au cœur d'un certain nombre de projets d'alimentation de la ville, surtout à partir de 1730, où l'argument du manque d'eau est inscrit, si vous voulez, au cœur du projet comme l'argument central qui justifie qu'on amène de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il faut en amener. Alors l'immense majorité de ces projets hydrauliques sont des projets de pompage d'eau dans la rivière, et puis, surtout dans la seconde moitié du siècle, émerge et se développe de plus en plus l'idée qu'il faut en fait dériver des rivières et que ça sera une solution beaucoup plus intéressante et radicale. Alors c'est principalement à cette deuxième solution que je m'intéresse sur les 18e et 19e siècles, et j'essaye de comparer en fait un certain nombre de problématiques qui se posent quand on entreprend de dériver des rivières. Ma question, elle est double. Elle est, est-ce que le manque d'eau dont on parle les historiens, est-ce que c'est vraiment autre chose qu'une simple reprise de la rhétorique des faiseurs de projets? Est-ce que les historiens se font en quelque sorte embobiner par leurs sources et se contentent de reproduire ce que disent les promoteurs et les faiseurs de projets? Et ma deuxième question, qui est en fait très liée, vous allez vous en rendre compte, qu'est-ce que change le fait de faire une dérivation de rivière par rapport à des projets de pompage? Et là arrive d'emblée, à partir du milieu du XVIIIe siècle, un certain nombre de questions, pas forcément totalement nouvelles, mais qui sont radicalement différentes des projets de pompage, qui est cette rhétorique sur les besoins, je vais y revenir, une réflexion comparative sur les qualités de l'eau. Tant que vous vous contentez de pomper de l'eau de la Seine, bon, ben c'est l'eau de la Seine, vous n'avez pas à comparer les différentes qualités d'eau de la Seine, vous pouvez la purifier, etc. Tout ça, c'est une autre affaire, mais fondamentalement, c'est la même eau que vous comptez amener, alors que quand vous amenez une eau qui est étrangère, qui est à plus de 100 km, voilà, il y a une réflexion comparative immédiatement sur est-ce que c'est une eau meilleure, moins bonne, etc. Et puis, toute une série de résistances de la part de ces populations très lointaines, puisqu'elles peuvent être à 50, à 100, voire au XIXe siècle, à plus de 200, 300 km de Paris, 500 dans des cas extrêmes comme la dérivation du lac Léman, je vous passe les détails. Donc des résistances des populations locales qui ne comprennent pas pourquoi elles devraient perdre leur eau et leurs usages de l'eau pour une grande ville lointaine. Alors ici, je ne parlerai donc aujourd'hui que de besoins et d'expropriation. Alors, je précise tout de suite pour la question des besoins en eau, parce qu'il y a un petit problème autour de cette notion de besoin elle-même, que je ne parle pas du tout de besoins physiologiques tels que la physiologie le développe au cours du XIXe siècle en guise de minimum vital, de la quantité d'eau que vous devez absorber pour survivre, etc. Tout ça, ce n'est pas du tout ça le propos. Non, là, le besoin dont je vais parler, c'est vraiment une catégorie de l'action publique telle qu'elle émerge au XVIIIe siècle, qui sert à l'intérieur d'un projet à justifier la quantité d'eau qu'on va amener à la ville. Et ça se pose de manière cruciale dans les dérivations de rivières, parce que l'infrastructure est fort peu flexible. Une fois que vous avez construit votre canal pour dériver une rivière, vous avez mis votre canal à une certaine dimension, ensuite, ça représente un travail certain de changer la dimension de ce canal, et donc la quantité d'eau que vous allez amener a une limite. Et donc il s'agit d'emblée, une fois que vous construisez le canal, de décider de la quantité d'eau maximale que vous décidez de recevoir dans cet aqueduc. L'exemple que je prends pour vous exposer cette notion de besoin qui va subir des déclinaisons successives au cours de la seconde moitié du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle, j'essaye de les suivre à très long terme, mais ici je vais vous prendre uniquement des exemples dans la seconde moitié du XVIIIe, c'est un des plus grands projets de la seconde moitié du XVIIIe, la dérivation de Livette. C'est un projet qui n'a pas été exécuté sous cette forme, mais qui a complètement redéfini les termes du débat autour de l'eau à Paris. Il va introduire ce projet de 1762 deux idées principales. L'idée que le besoin en eau est un besoin global, qui se qualifie à l'échelle de la ville, je vais y revenir, c'est central. Et puis, donc, un débat sur lequel je ne vais pas m'apesantir aujourd'hui, mais qui est crucial et très lié à cette notion de besoin, sur la qualité de l'eau. Le personnage qui propose le premier ce projet est Antoine de Parcieux. Ça n'est pas du tout anecdotique, c'est un académicien des sciences qui combine deux formes de compétences, l'une en hydraulique, mécanique, machine, etc. Et d'autre part, quelqu'un qui travaille sur les populations et les statistiques. Et c'est ce lien entre ces deux formes de savoir qui explique qu'il va comprendre le problème de l'eau d'une toute nouvelle façon. Le projet qu'il propose en 1762 va reformuler le problème de l'eau à Paris en disant « c'est un manque d'eau », ça beaucoup de gens l'ont dit avant lui, mais ce problème d'eau, c'est pas du tout à l'échelle d'un quartier, c'est pas un petit machin, c'est à l'échelle de la ville que vous devez l'appréhender. Et comment je vous calcule ça? Eh bien, il fait un calcul qui semble aujourd'hui d'une immense banalité, mais qu'il a inventé à ce moment-là. Il dit ben, « je multiplie la population de la ville par un besoin individuel moyen » qu'il évalue être à 20 litres par jour, d'où un total nécessaire à la ville de 16 000 mètres cubes d'eau par jour. Je vous ai mis des unités d'aujourd'hui pour simplifier les perceptions. Alors, ce calcul a l'air aujourd'hui trivial. Il n'est absolument pas trivial pour les personnes qui écoutent de Parcieux, pour la simple raison que vous n'avez pas de recensement. Donc, l'évaluation de la population est extrêmement spéculative. Et vous allez voir que dans toutes sortes d'autres projets, on peut l'évaluer de manière assez variable. Le besoin individuel moyen, eh bien, il est posé par de Parcieux comme étant de 20 litres. Mais enfin, là encore, vous allez voir qu'on peut s'en inventer un plus petit, plus grand, selon ce qu'on estime nécessaire. Et surtout, c'est radical de dire qu'il y a un besoin individuel moyen, puisqu'on est dans un monde où s'il y a une chose qui est profondément inégalitaire, c'est la consommation. Toutes les formes de consommation sont profondément articulées selon les statuts. Alors, il ne s'arrête pas là. Il vous poursuit son calcul en disant « oui, mais dans ma ville de Paris, j'ai de la ressource quand même, puisqu'il y a de l'eau qui arrive à la fontaine, et donc je vous soustrais ce qui existe déjà, l'eau qui arrive aux fontaines, et il faut donc amener à Paris 12 400 mètres cubes d'eau par jour. Or, nous dit de Parcieux, charmante petite rivière coulant dans le sud parisien, l'Yvette fournit à l'étiage 24 000 mètres cubes d'eau par jour. Par conséquent, si vous voulez amener les 12 400 mètres cubes, il vous resterait encore, si vous dérivez l'Yvette dans sa totalité, 11 600 mètres cubes que vous pouvez utilement appliquer à un certain nombre d'usages publics, nettoyage des rues. Alors là, il en invente toute une série d'usages possibles. Alors, que fait ce calcul? Ce calcul est beaucoup plus original qu'il n'y paraît. Il prétend mesurer quelque chose dans le futur, c'est-à-dire ce qui devrait être, et en réalité, il s'appuie uniquement sur des données du présent, sur des consommations présentes. Les 20 litres par jour dont il vous parle, ce sont des choses que les gens consomment effectivement. Alors ça pose deux problèmes, ce type d'évaluation. Ça pose un problème dont je vais très peu parler, qui est celui de l'évolution des besoins. C'est une vision classique dans la seconde moitié du XVIIIe que l'évolution des besoins, certes, peut évoluer, va sans doute évoluer, mais que néanmoins, on reste dans une manière statique pour le saisir, tant sur le nombre d'habitants que sur leur consommation. Mais surtout, ça pose un problème qui est là beaucoup plus intriguant pour l'historien, qui est, c'est quoi ce manque d'eau calculé à partir d'une consommation existante? Alors je vous reprends le calcul pour vous détailler ce qu'il y a derrière et où se situe exactement ce problème. Alors que fait de Parcieux dans ce calcul? Eh bien, la première chose qu'il fait, c'est qu'il quantifie. Et ça, il est le premier à quantifier. Et la quantification introduit quelque chose qui est nouveau par rapport à tous les projets antérieurs, qui, eux, disent tous, il manque de l'eau à Paris, il faut amener de l'eau à Paris. Ça, c'est pas original. Ce qu'il dit, c'est que le manque est énorme. Et pour montrer que ce manque est énorme, eh bien, il fait un calcul et il a un chiffre. Et du coup, ce chiffre paraît pas du tout délirant par rapport à la rivière qu'il veut amener. Donc, la solution, si vous voulez, apparaît tout à fait adaptée. La deuxième chose qu'il fait, c'est que ce calcul efface en réalité l'essentiel de la consommation. C'est-à-dire, il réduit les ressources aux fontaines. Et pour une simple raison, c'est que le projet de Departieu est aussi un projet social. Il s'agit de se débarrasser des porteurs d'eau. Porteurs d'eau qui représentent une population turbulente, je vous passe les détails sociaux qu'il y a derrière cela. L'idée, c'est qu'on va construire un très très grand nombre de fontaines dans Paris et que tout le monde aura une fontaine à sa proximité et sera capable d'aller s'approvisionner rapidement près de chez soi. Donc c'est là qu'est le nœud, si vous voulez, c'est-à-dire on sait ce qu'il faut amener aux Parisiens puisque c'est ce qu'ils consomment déjà, c'est juste qu'il faut leur amener autrement, en quelque sorte. La troisième chose, c'est que en évaluant ce besoin calculé sous cette forme, la dérivation apparaît comme la solution définitive, c'est-à-dire il n'y aura plus de projet d'hydraulique après lui, il devient le seul. C'est-à-dire que ça n'est plus une question de gestion par petits projets au niveau des quartiers, ce qui est pratiquement le cas de tous les projets de fontaines jusqu'à cette époque. Il s'agit désormais de prendre en charge la totalité de l'eau, c'est-à-dire de construire un monopole. La conséquence directe de ça, c'est que tous les projets ultérieurs à partir de 1760, même ceux qui font du pompage dans la Seine, vont dire « ça aussi, on est capable de faire ». Nous aussi, on a compris l'histoire des besoins globaux à l'échelle de la ville, était une manière de dire « on peut prendre en charge la ville entière, même si on le fait seulement dans un second temps ». Même les frères Perrier feront exactement ça, ils diront « nous serons capables à terme de couvrir la ville entière ». Et enfin, il y a cette incroyable proposition qui est de dire « voilà, j'avais calculé les besoins tels qu'il les fallait par habitant, et puis il reste quand même un petit quelque chose. Il y a ce reste de 11 600 m3 pour lequel Departieu trouve immédiatement toute une série de fonctions publiques. Mais ce n'est pas du tout étrange, ce calcul. On le retrouvera dans tous les projets de dérivation par la suite, qui est que systématiquement, tous les gens qui proposent de dériver une rivière proposent de dériver la rivière tout entière. Pas de prendre un petit bout de la rivière, il faut la prendre dans sa totalité. Et là, vous avez un argument qui est important au niveau rhétorique, qui est vous êtes rapidement dans des questions d'arbitraire sur on pourra en laisser un peu plus, un peu moins, etc. Quand vous prenez la totalité de la rivière, vous construisez en fait une adéquation qui va devenir cruciale dans la rhétorique de ces projets sur la naturalité du besoin de la ville. Le besoin de la ville, dans tous ces projets, est calculé pour être exactement égal à une rivière qui lui correspond parfaitement et qui est là, quelque part, dans le pourtour parisien. Après, la discussion sera bien entendu sur quelle est cette rivière qui correspond parfaitement à Paris. Alors, je pars très rapidement sur les détails, je pourrais vous en citer un très grand nombre. Je prends une série de... je vais prendre deux projets proposés par deux ingénieurs assez différents dans les années 1800 pour dériver deux rivières assez différentes et qui font le même genre de calcul. C'est-à-dire, d'un côté, chez Brahe, un besoin individuel qui est toujours de 20 litres. De l'autre côté, chez Bruyère, un besoin qui tombe à 6,9 litres, pour des raisons que je passerai. Une population qui, là encore, peut bouger pas mal. Vous arrivez à un besoin domestique calculé exactement sur le mode de Departieu. Tout le monde fait maintenant, désormais, ce type de calcul. Si vous voulez, il a introduit une rhétorique que tout le monde refait... systématiquement, et puis vous pouvez rajouter des besoins publics qui sont en quelque sorte le bonus dont vous avez besoin pour arriver à la quantité totale. Alors vous pouvez décider que vous en avez besoin, puis vous pouvez décider du côté de Bruyère que vous n'en avez pas besoin, ce qui vous réduit dramatiquement évidemment votre quantité nécessaire. Ça vous arrive à des besoins totaux qui peuvent être colossaux dans le cas de Brahe, 56 000 m3, ou au contraire très faibles dans le cas de Bruyère à 7 000 et qui correspondent en fait au type de rivière que vous voulez dériver, l'Ourcq dans un cas, la Beuvronne dans l'autre. Bien. Je passe sur ces détails, vous retrouvez ça au 19e siècle, Belgrand fait ça, tout le monde fait ça, c'est un passage essentiel, cette définition des besoins, mais évidemment elle dépend totalement du projet que vous avez derrière et qui est toujours aussi un projet, qui est un projet technique, mais souvent aussi un projet social, c'est le cas aussi chez Belgrand ultérieurement. Alors, deuxième partie de mon intervention maintenant sur les résistances à l'appropriation. Là je vais prendre un autre exemple qui est en fait la prolongation du précédent. C'est le cas du canal de la Bièvre tel qu'il a un début d'exécution dans les années 1787 à 89. Alors, je vous ai parlé donc du canal de l'Yvette tel qu'il est proposé par Departieu en 1762. Il y a toute une série de suites à ce projet, en particulier dans les années 70, la rédaction d'un projet détaillé et complet est confiée à deux ingénieurs des ponts et chaussées, Perronnet et Chézy, qui vont introduire un certain nombre de perfectionnements au projet de Departieu, en particulier l'idée de dériver la Bièvre en plus de l'Yvette et de construire des réservoirs pour arriver à réguler en fait, le flot qui arrive à Paris, puisque la variation de ces deux rivières est assez considérable. Dans les années, la fin des années 70, finalement, l'entreprise des fers Perrier est autorisée. Et au moment même, en fait, où cette entreprise est déjà en train de subir des agiotages sur le système actionnarial assez délirant qu'ils ont mis en place, eh bien, arrive un capitaine d'artillerie à la retraite de fer de Lanouère qui va proposer, à partir des années 1780, de faire le canal de Livette pour presque rien, c'est-à-dire moins d'un million de livres, alors que tous les projets antécédents étaient plutôt dans l'ordre de 7 à 8 millions de livres. Cette économie est réalisée, en réalité, en ne revêtant pas le canal. Donc, il s'économise et il fait un canal en terre. Donc, c'est ce projet-là dont je vais vous parler à présent. Cette carte, juste pour vous préciser ce que c'est que l'Yvette et la Bièvre, ce sont deux vallées totalement différentes. La vallée de Chevreuse que vous avez, ça s'en appuie quelque part par ici, la vallée de Chevreuse ici, hein, qui descend vers la Seine là et qui rejoint Paris, donc ensuite via la Seine, et puis la petite vallée de la Bièvre qui arrive dans Paris. Ça sera un point important de mon intervention ultérieurement, c'est-à-dire elle traverse dans Paris, c'est une rivière urbaine importante à Paris, puisqu'elle concentre pratiquement toute l'activité industrielle parisienne, tout ce qu'il y a de plus polluant à Paris depuis le XVIIe siècle est concentré dans ce quartier qui est le Faubourg Saint-Marcel. J'y reviendrai. Donc ce que proposent tous ces projets, c'est de percer quelque part dans la montagne à ce niveau-là et donc de passer d'une vallée dans l'autre. Alors ce projet de fer, il y a tout un démarchage d'abord extrêmement long. De fer n'arrive que très tardivement à convaincre un certain nombre de personnes à la cour qu'il faut absolument que son canal soit autorisé. C'est une affaire extrêmement spéculative, je passe sur les détails, mais il y a de fortes présomptions comme quoi il s'agit essentiellement de faire de l'argent et pas du tout de dériver de l'eau. En 1786, il parvient finalement à faire examiner son projet de canal par une commission et il obtiendra, suite au rapport de cette commission, en 1787, l'autorisation de construire son canal, ou plutôt, vous allez voir, une partie de son canal. Alors cette commission de 1786, elle est composée d'un certain nombre de conseillers d'État et surtout d'académiciens qui sont théoriquement associés, mais en réalité font l'essentiel du travail d'expertise sur le dossier. La question du préjudice est au cœur de l'affaire dès le début, c'est-à-dire qu'on se soucie, dans les attributions de cette commission de 1786, essentiellement de savoir si ce canal ne va pas nuire à tout le monde, et en particulier sur un certain nombre de dossiers qui ont été évoqués dès le début dans l'espace public, sur l'arrosage des prés, sur le danger des carrières. Tout le sud parisien est une grande exploitation, une unique carrière, si vous voulez, et donc ce canal va passer sur le ciel des carrières, sur le dessus des carrières, pourrait s'infiltrer, pourrait ruiner ces carrières, elles pourraient s'effondrer. Et puis, surtout, évidemment, on va prendre de l'eau, donc on va, en fait, faire chômer des moulins, voire carrément les supprimer. Et là, il y a toute une série d'enjeux autour de est-ce que ça pourrait porter préjudice, même à terme, à la ville de Paris. Eh bien, le rapport de 1787 de nos académiciens est extrêmement optimiste. Non, pour les deux premiers chapitres, ça ne peut nuire en aucune manière. Quant au chômage des moulins, les académiciens reconnaissent que, ben oui, sans doute, forcément, puisqu'on enlève de l'eau, mais que c'est impossible à évaluer à l'avance de combien sera ce chômage et que donc il faut essayer pour savoir. La suppression, en tout cas, de ces moulins serait non signifiante pour l'approvisionnement de Paris, selon ces académiciens. D'où leur réponse, qui est dans une logique qu'on pourrait qualifier de logique de l'essai. Leurs conclusions sont désastreuses sur le projet. Le projet est très mauvais, c'est une liste de reproches. Il est imparfait, il est mal rédigé, il manque de détails. On ne sait pas exactement ce que va faire de fer. Les indemnités, les travaux, tout est sous-évalué et manifestement ultra-optimiste. Et il y a de très grandes incertitudes, tant sur la qualité de l'eau que sur les quantités dont on peut, sur lesquelles on peut compter. Et même les capacités techniques et financières, sociales, tout ce que vous voulez de fer sont remises en question. On se demande très sérieusement si cet individu est capable vraiment de construire un tel canal. Mais, concluent ces académiciens, malgré toutes ces choses, on peut quand même autoriser cette entreprise et faire, comme ils disent, en grand, l'essai d'une entreprise désirée depuis longtemps. Vous comprenez, ça remonte aux années 1760, c'est devenu le modèle de ce que l'on attend comme la solution définitive de l'eau à Paris, donc il y a toute une série de positionnement qui font qu'on désire effectivement une entreprise de ce genre. Je vous passe les détails sur évidemment le fait qu'un certain nombre de ces académiciens sont soupçonnés d'être partie prenante dans la partie financière du programme qui risque donc de leur apporter auxiliairement de l'argent. Et donc ils disent, eh bien c'est très simple, nous allons faire un essai et nous allons autoriser de faire non pas à dériver l'Yvette tout de suite, mais seulement à dériver la Bièvre qui est plus petite, plus proche, etc. Tout ça. S'il y arrive, eh bien on aura d'abord des certitudes sur les capacités de fer, qui sont assez spéculatives pour l'instant. On aura un certain nombre de certitudes sur la qualité de l'eau, sur la quantité dont on peut compter. Et puis, évidemment, ça fera aussi un tremplin pour de fer pour la suite. Alors, ça introduit néanmoins ça, une ambiguïté fondamentale qui va suivre en fait le projet dans la suite sur le nom du canal. Le nom du canal va continuer à s'appeler l'entreprise de Livette et canal de Livette. Livette, il ne s'en s'agit plus en réalité. C'est un canal de la Bièvre dont il s'agit et vous allez voir que ça va avoir un certain nombre de conséquences. Alors, il va y avoir une opposition des riverains. C'est là que naît l'opposition à ce projet. Alors, cette opposition, elle n'est pas originale. Si vous voulez, n'importe quel projet de travaux publics sous l'Ancien Régime suscite des hostilités assez violentes et qui est liée principalement au mode d'expropriation dans les travaux publics sous l'Ancien Régime, qui est au grand désavantage des propriétaires. À moins que vous soyez une notabilité importante, vous avez de fortes chances de n'être jamais indemnisé. Donc, évidemment, il y a dans les arrêts qui autorisent de faire à construire un certain nombre de précautions, comme l'impératif qu'il doit indemniser avant de construire, mais c'est assez rhétorique. Tout le monde sait qu'on ne tient pas grand compte de ce genre d'impératif. De faire commence son travail, il commence d'ailleurs même avant d'être autorisé, et il commence par détruire un certain nombre de choses, des bâtiments, des vignes, des champs, des arbres, etc., avant même qu'il y ait eu une évaluation par expert. Donc, vous avez une hostilité des populations locales qui est principalement sur, pas tant sur l'ouvrage lui-même d'abord, que sur cette question que, à partir du moment où tout est détruit, évidemment, évaluer le prix de ces vignes, de ces arbres, de ces maisons va devenir compliqué. Donc, je passe sur un exemple que j'aurais pu vous exposer en détail à Bourg-la-Reine, où cette affaire est plus claire. Donc c'est une opposition qui va d'abord se tourner contre les ouvriers, c'est-à-dire ces riverains essayent de résister au travail des ouvriers qui, manu militari, arrivent et arrachent, piochent, creusent, etc. Les ouvriers de Defer rendent bien ça aux riverains en les intimidant, les mettant à l'amende, voire carrément en les molestant. D'où toute une série de plaintes de ses propriétaires à l'intendant de la Généralité de Paris, Berthier, lequel considérera qu'il s'agit là de cris vagues qui ne peuvent faire impression sur les personnes instruites et, selon une rhétorique qui est classique aussi dans les questions de travaux publics de l'époque, considère qu'il s'agit là essentiellement d'une exagération qui vise à faire monter les prix de l'expropriation. D'où, de la part de ses opposants, un certain nombre d'appels au Parlement, un certain nombre d'arrêts pris en leur faveur qui interdisent le canal, qui sont successivement cassés par le Conseil du Roi ou de faire un certain nombre d'appuis désormais assez importants. L'affaire traîne encore un tout petit peu et est finalement arrêtée par décision du Conseil en avril 1789, suite à un certain nombre de quasi-émeutes dans le faubourg Saint-Marcel, sur lesquels je vais revenir dans la suite, de faire perdre progressivement ses appuis et les habitants le long du canal rebouchent le canal très avancé déjà et arrachent plusieurs milliers d'arbres qui avaient été plantés là à grands frais. Donc le canal a vécu, il ne ressortira jamais malgré toutes les tentatives de Defer sous la Révolution pour faire renaître son entreprise. Alors, l'essentiel du problème naît de la différence d'évaluation qu'ont les différents acteurs sur les conséquences que pourrait avoir ce canal. Et une des manières de rentrer dans la chose, c'est de voir leurs différentes évaluations des indemnités nécessaires sur les dégâts tels qu'ils pourraient apparaître. Defer considérait qu'il en coûterait au moins 250 000 livres. La commission de 1786 considère que c'est au moins 400 000, en ayant une vision d'ailleurs assez limitée de ces dégâts. qui sont beaucoup plus importants si on regarde les débats, les dégâts tels qu'ils sont évoqués par les opposants. Donc sur les carrières qui pourraient être détruites, sur les usages locaux en termes de consommation évidemment, de blanchissage, de ruissage, vous êtes une série d'usages locaux de la rivière, un certain nombre de conséquences environnementales sur la perturbation du climat, en particulier sur les brouillards, les ombres, toutes sortes d'arguments de ce genre-là qui interfèrent avec les cultures, la nécessité de construire des ponts, sinon vous êtes obligé de faire des grands détours pour atteindre vos champs, etc. Tout ça. Et puis surtout, et ça va devenir en fait l'argument bientôt principal, la présence de manufactures. Alors vous avez déjà une manufacture importante, très en amont sur la Bièvre, qui est la manufacture de toile de Jouy, qui constitue une pollution importante dès la source, et qu'il va donc falloir, si vous voulez utiliser cette eau pour la boisson, supprimer d'une manière ou d'une autre, ce qui risque de poser un certain problème. Et puis surtout, vous avez ensuite le faubourg Saint-Marcel. Alors, vous voyez là la Bièvre avec ses deux branches qui traversent le faubourg Saint-Marcel. Le faubourg Saint-Marcel, je vous l'ai dit, est depuis le XVIIe siècle la concentration de pratiquement tout ce que Paris compte de plus polluant en matière de boucherie, tannerie, teinturerie, tout ce qu'on peut imaginer, qui a été regroupé là. C'est une vraie politique de l'État de les avoir concentrés à cet endroit-là. Ces manufacturiers et industriels sont d'abord peu mobilisés. Ils ont manifestement été égarés par la stratégie du nom de ce canal de l'Yvette, qui en réalité est un canal de la Bièvre. Ils deviennent de plus en plus actifs au cours de l'année 1787, et eux, ils ont une évaluation qui est tout à fait différente par rapport aux quelques centaines de mille évoquées par les autres. Eux, ils sont dans une échelle qui dépasse les quelques millions et qui est évidemment totalement au-delà de ce que peut se permettre une entreprise de ce genre-là, parce que simplement, ils considèrent que l'eau disparaissant du faubourg Saint-Marcel, eh bien, c'est toutes ces industries qui doivent fermer du jour au lendemain et qui doivent aussi mettre au chômage toute une série d'ouvriers qui sont évalués à plusieurs dizaines de milliers. De fait, cet aspect social a des conséquences sur les agitations dans ce faubourg au cours de l'année 1789 et deviennent décisives tant sur la décision d'interrompre le canal que sur toutes les stratégies d'affichage qui visent en gros à ramener le calme dans ce quartier. Alors, pour comprendre exactement ce qui se passe autour de cette idée que les usages ne seraient pas perturbés, il faut saisir en fait un certain nombre d'ambiguïtés. De faire prétend qu'il ne détournerait qu'une partie de l'eau, mais en même temps, il soutient que les manufacturiers n'ont rien à craindre puisqu'il va leur amener plus d'eau qu'ils n'en avaient actuellement, ce qui sous-entend qu'ils devront payer pour cette eau qui jusqu'alors leur appartenait. Et par ailleurs, qu'il va nettoyer le faubourg, qu'il veut se débarrasser de toute cette population agitée, sale, etc. Les commissaires ne sont pas moins ambigus sur cette quantité d'eau, puisqu'ils estiment qu'il restera assez d'eau, mais par ailleurs, ils considèrent que Defer a pris des engagements au niveau des quantités d'eau qu'il va donner et distribuer dans Paris, et que pour tenir ces engagements, ma foi, il faut vraiment qu'il dérive toute la rivière et qu'il ne restera vraiment aucune goutte. Donc on est là dans des tensions, si vous voulez, qui sont au cœur de toutes les évaluations. Du côté des manufacturiers, vous avez la stratégie inverse, qui disent que la plus légère diminution du volume, quelques lignes, les mettrait hors d'état de pouvoir exploiter leur manufacture, et que ce n'est qu'en soignant cette rivière, en l'entretenant très régulièrement, qu'ils ont réussi à conserver le débit telle qu'elle est. Cette rivière, il faut le préciser, est en gestion depuis le XVIIe siècle et plus particulièrement depuis le XVIIIe siècle, est aux mains d'un groupe d'industriels, les intéressés à la conservation de la Bièvre, qui ont un droit de police et toute une série de droits sur cette rivière, même très en amont de la rivière, et qui contrôlent en fait son fonctionnement, son entretien, etc. D'où, en fait, une opposition qui n'est pas seulement sur les usages, mais véritablement sur la propriété de l'eau, et qui va jouer donc sur cette idée d'expropriation. Dans l'arrêt de 1787, qui autorise Defer à détourner cette eau, on ne lui accorde pas seulement, ce qui est assez banal, la pleine propriété du canal, du lit, mais bien aussi de l'eau qu'il conduira. Alors là, on est dans quelque chose qui est extrêmement rare pour ce genre d'entreprise. D'habitude, vous êtes dans des logiques qui viennent du droit romain sur le fait qu'il est impossible de s'approprier l'eau courante, etc. Vous avez là tout un débat autour de l'appropriation de l'eau courante, très très clair et absolument explicite. De l'autre côté, vous avez des acteurs qui estiment qu'ils ont de par leurs travaux, de par les droits anciens qu'ils ont sur cette rivière et sur les travaux qu'ils ont fait la rivière, qu'ils l'ont littéralement créée, ce qui est très largement vrai. C'est une rivière extrêmement artificialisée qui est le fait de ces industriels, et que donc ils la possèdent et que c'est en quelque sorte une propriété. Ambiguïté, puisque précisément, ils cherchent à défendre cette propriété comme appartenant au public, alors qu'évidemment, le public, dans cette matière, c'est eux. J'ai pratiquement fini, puisque j'arrive au terme de ma demi-heure, c'est vrai, ça va? Alors, je peut-être vous mettre juste une petite conclusion sur cette affaire. Les différents acteurs vont juger qu'il y a là... les opposants vont juger qu'il y a un défaut d'expertise, que les commissaires n'ont rien vu parce qu'ils n'ont pas visité le local. Il y a toute une série de témoins qui prétendent que toutes les personnes qui ont participé à l'expertise, en particulier les fameux académiciens, n'étaient même pas là au moment où ils sont censés avoir fait l'expertise, et que s'ils sont venus, ils n'ont pu avoir connaissance des inconvénients puisqu'ils n'ont point appelé les municipalités ni aucun des habitants qui leur aurait fait des observations que Sa Majesté paraissait désirer. Donc on est dans une vision, si vous voulez, où la connaissance du local est décisive pour être en mesure de dire quelque chose là-dessus. Ce qui est assez original, mais qu'on retrouve dans plusieurs autres affaires du même genre, c'est que les opposants exigent une consultation et exigent une enquête d'Ecomodo et d'Incomodo, qui est une enquête typique de l'Ancien Régime sur l'appréhension des inconvénients et des avantages de ce genre d'entreprise, et avec cette idée que si on était venu vers les habitants avec les plans et les devis, bien les habitants auraient clairement expliqué que cette entreprise était impossible dès le début. Alors la réaction va être oscillante de la part de l'intendant, qui est que d'abord il va être dans une position légaliste, puisque l'intendant a toute connaissance sur ce genre d'affaires, c'est lui qui dit le droit absolument et totalement, et donc il constate qu'il n'y a pas d'infraction, que de faire ne fait que ce qu'il a été autorisé à faire, et que par conséquent il ne peut rien faire contre de faire. Cette position-là, il la soutient en disant aussi que l'expertise a été tout à fait en connaissance de cause, en explicitant qu'il y a toutes sortes de personnes qui ont participé à cette expertise et l'ont fait très sérieusement. Et puis, il va progressivement basculer dans une deuxième attitude qui est qu'il faut probablement faire un nouvel examen et que ce nouvel examen suffirait probablement à convaincre les habitants que, en fait, il n'y a pas du tout les risques qu'ils prétendent qu'il y aura. Et donc, là, vous avez une vision de l'enquête publique qui serait plutôt une production du consentement, l'idée qu'on s'en sortira. Le projet donc s'arrête là, c'est-à-dire la population reprend possession des lieux et ferme la chose. Et voilà, je m'arrête là pour cette affaire-là. Et pour conclure, je voulais vous dire, donc j'essaye de suivre ce genre de choses-là, c'est-à-dire ce genre de manière dont les populations arrivent à s'opposer à des projets de dérivation d'eau, et la manière dont elles arrivent à résister à cette appropriation de l'eau, voire parfois expropriation de l'eau, comme c'est le cas dans cet exemple, en redéfinissant aussi en partie les pratiques, les savoirs autour, les savoirs juridiques aussi autour de l'eau. Vous avez au XIXe siècle, ça sera le cas beaucoup plus. Donc on voit souvent Belgrand et les grandes dérivations, l'aqueduc de Lavannes, etc., comme des grands ouvrages magnifiques qui amènent de l'eau à Paris et qui sont très charmants. En réalité, ce sont des expropriations massives de sources absolument impressionnantes et dans certains cas, comme par exemple l'aqueduc de la Duisse, dans des endroits pas forcément extrêmement, pas forcément très riches en eau. Et ces populations vont en fait se saisir de toutes sortes d'avocats, de toutes sortes de stratégies juridiques pour essayer de définir, de faire évoluer le droit de l'eau dans leur sens pour que ça ne soit plus possible de leur enlever ces eaux. Ça va évoluer en fait uniquement dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ce n'est qu'à la toute fin du XIXe siècle que cette manière de s'approprier l'eau telle qu'on l'a fait typiquement tout au long du XIXe va devenir plus possible en fait. Mais bon, je ne rentre pas là peut-être dans les détails.
Merci pour cette belle exposé sur l'alimentation en eau de Paris. Je pense qu'il y a plein de choses. Vous dites plein de choses et il y a plein de choses encore que vous êtes en train de faire. Moi, j'avais une question sur la... Ben, c'est effectivement le sentiment qu'on a, c'est que c'est le canal de Lourdes ou ces projets-là, c'est de l'eau publique. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'eau privée. Mais ça veut dire que, par exemple, dans les comptabilités, ils ne parlent pas des formes d'eau, en particulier de la nappe, des puits, ni de la pluie, ni de la réutilisation, etc. Et c'est une eau qui n'est pas industrielle. Ce n'est pas de l'eau pour l'industrie, ce n'est pas de l'eau pour l'artisanat. Pas trop, en tout cas, n'en parle pas. C'est de l'eau pour les fontaines.
Pour l'instant, là, à ce niveau-là, voilà. C'est essentiellement ça. Mais c'est intéressant dans ces rhétoriques, quand vous suivez ces projets, en fait, plus ça va au 19e, plus on intègre précisément l'eau industrielle et l'eau artisanale là-dedans, qui en fait que la plupart ont leur mode d'approvisionnement et leur circuit, et progressivement, justement, ils rentrent en fait dans la logique soit de l'eau publique, soit de l'eau privée, mais voilà, ils sont intégrés en fait.
Le projet de, enfin, les dérivations de la vanne, etc., de Belgrand, c'est de remplacer toutes les eaux par celles qui seront payées, qui seront payantes.
Tout à fait.
Donc, je pense qu'il y a une évolution aussi temporelle assez importante de ces volumes. Et puis, il y a aussi une chose qu'on voit très bien dans le canal de Lourdes, à propos du canal de Lourdes, que vous connaissez bien, qui est la question de la poussière, c'est-à-dire que l'alimentation, les besoins en eau de Paris, comme dit Chaptal, c'est, ou Napoléon, c'est d'abord éliminer la poussière, éliminer la saleté, plus que pour l'alimentation quotidienne.
Ouais, ça c'est assez, enfin c'est débattu précisément parce que il y a, si vous voulez, dans ces logiques-là, à ce stade-là, typiquement, je pense, Lourdes rentre exactement dans le même style de rhétorique en fait en matière de besoin en eau que quelque chose comme Deparcieux. On est dans une rhétorique qui calcule à partir de la population, c'est-à-dire vraiment du besoin domestique, et qui rajoute ensuite un besoin public. Et ce besoin public, il est en fait infini dans les. Alors c'est pas le cas chez Deparcieux, c'est pas encore le cas dans les projets du tout début 1800. Ça devient en fait le cas typiquement dans le projet de Lourdes parce que on arrive à une logique qui est presque inversée, qui est de dire, alors soit on calcule les besoins vers le bas et on dit, il y a un besoin qui est sûr, c'est le besoin domestique de chacun, mais ensuite les besoins publics, bon, ben ça c'est vraiment variable, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ajuster, ça peut devenir infini, donc c'est arbitraire, donc c'est politiquement difficile à justifier. Et donc la solution, c'est de réinverser le problème, c'est de dire, on va dériver une rivière, ben, quant à faire, puisqu'il y a toute cette eau, dérivons-la toute entière. Et du coup, on a une quantité d'eau qui est la quantité d'eau présente dans la rivière, qui est celle qui justifie ensuite les usages. Et les usages, effectivement, vous pouvez les multiplier. Alors du coup, dans le cas de Lourdes, c'est pas d'abord la poussière, c'est d'abord les fontaines. C'est-à-dire, il y a c'est une nouvelle fontaine. C'est plus du tout la fontaine où vous allez prendre de l'eau. La fontaine qui est la fontaine napoléonienne, c'est la fontaine magnifique. Enfin, la fontaine, comme on dit, jaillissante. Voilà, c'est décoratif, si vous voulez. C'est une monumentale. Une démonstration de gloire, de puissance, etc. Tout ça. Donc c'est une autre déclinaison. Effectivement, c'est ça qui occupe une bonne partie en fait ensuite du besoin public dans le projet napoléonien. Ouais.
J'avais un peu l'impression qu'à propos du canal de Lourdes, parce que à Napoléon est soumis aussi le projet de Livette. C'est lui qui choisit Lourdes, mais il me semble que le projet de il y a un nouveau projet de Livette qui est...
En fait ces projets-là sont tous présents continuellement. D'accord. Depuis les années 1780. Ouais. On parle déjà de la Beuvronne en 1780. Ouais. Lourdes, ça apparaît vraiment, vous voyez, dans les années 1790. Et voilà, ce qui est discuté à l'époque napoléonienne, c'est vraiment tout à la fois, quoi. C'est toutes les rivières du sud parisien et toutes les rivières du nord-est. D'accord. En même temps. Ouais. Voilà. Et donc c'est celle-là qui finit par gagner. Bon, ça, il y aurait énormément à dire pourquoi c'est celle-là, mais... C'est...
Et vous ne pensez pas que si elle gagne, c'est en partie grâce ou la faute des militaires?
Ah non, je crois pas. Non, c'est une affaire extrêmement pons et chaussée. Comme c'est même, à mon avis, un cas extrême de ça, avec un débat sur la navigation du Nord, qui est en fait défendu vraiment comme navigation commerciale. Donc c'est tout un chapitre très particulier du tout début 19e qu'on appelle la petite navigation, qui est en fait un espèce de fantasme sur la rentabilité des très petits bateaux. Voilà. Bon, qui est... Pardon ? Voilà, les flûtes, les fameuses flûtes de Lourdes. Voilà.
Alors, une remarque simplement sur Saint-Marcel. En fait, Saint-Marcel, c'est le faubourg industriel de Paris depuis au moins le XIIIe siècle. parce que le livre des métiers nous montre qu'il y a une agglomération de métiers. Oui. Si on rentre dans le 16e siècle, c'est déjà la pollution totale. Oui. Hein, donc,
bien sûr. Non, ce que je voulais dire, c'est pas du tout que ça n'est pas pollué avant. Bien sûr, c'est pollué avant. Mais à partir du 17e siècle, en fait, on concentre là. C'est-à-dire que la plupart des industries polluantes sont interdites dans le reste de Paris. Et c'est pour ça qu'elles sont toutes là, en fait.
On est hors de Paris.
Enfin non, c'est un quartier de Paris quand même. C'est un faubourg. Mais enfin, c'est quand même dans le...
On est très longtemps hors de Paris.
Oui. Hein.
C'est Paris et Saint-Marcel.
Oui.
Et je crois que ça a compté dans l'implantation. Enfin, c'est d'abord qu'il y a la Bièvre.
Oui.
Ensuite, il y a l'affaire des moulins. Quand ils disent que ça n'a pas grande importance, je pense qu'ils n'ont pas forcément tort. Parce que les gros moulins ne sont pas là. La Bièvre, elle est quand même pas terrible. Hein. C'est les gros moulins, il faut aller plus loin, il faut aller sur l'Essonne.
C'est-à-dire que ça dépend totalement pour qui. C'est-à-dire que c'est pas gros pour Paris, là, ils ont raison. Ah mais, non, mais pour le coin, voilà. pour le coin c'est tout à fait...
Un dernier point que je voulais voir avec vous, c'est cette question de propriété.
Hein,
parce que ces types-là devaient s'estimer propriétaires de l'eau, comme ils étaient propriétaires des rives. Et là, on rentre dans un problème de droit qui est encore actuel. Hein, qui est propriétaire d'un petit cours d'eau, au bord d'un petit cours d'eau, lorsque il est propriétaire des deux rives.
Oui.
Là, si on rentre dans le problème de droit, alors là, je ne suis pas spécialiste de droit romain, mais il faudrait peut-être remonter là, et c'est assez compliqué comme affaire.
Alors, bon, pour la Bièvre, c'est un cas extrêmement compliqué, parce que c'est un cas mixte, c'est-à-dire c'est un cas où théoriquement, c'est une rivière qui appartient au domaine, qui est gérée par les eaux et forêts, mais en réalité, elle a été concédée, en quelque sorte, c'est pas concédée exactement, mais disons, il y a eu un privilège donc, à ces industriels du Faubourg Saint-Marcel qui en sont devenus véritablement les... alors, si pas propriétaires, évidemment, ça n'a pas du tout de sens, mais les quasi-propriétaires, puisqu'ils en sont les total les gestionnaires. Voilà, les possesseurs, exactement. C'est une espèce de syndicat.
Qui se manifeste au cours du XVIIIe siècle, mais qui existait avant de manière informelle.
Oui, c'est ça. Enfin, il a été, je crois que son premier règlement vraiment, c'est les premières lettres patentes qu'ils ont, qui les instituent complètement sous cette forme-là, c'est 1730, quelque chose comme ça.
Que vous avez donné la 1730, c'est pour ça que je fais ça avant, en disant XVIIIe siècle. Voilà.
Alors, ils assurent pas seulement ça, donc effectivement, tout ce qui est entretien, mais aussi la police. C'est-à-dire, en fait, ils contrôlent que chacun utilise l'eau, enfin, les riverains utilisent l'eau uniquement selon les droits qu'ils ont à cette eau. Donc, par exemple, que les irrigants n'utilisent l'eau qu'aux heures où ils ont droit, dans les quantités, etc. Que théoriquement, il n'y a pas de ruissage de chanvre, il est en théorie interdit, en fait, toléré à certains endroits. Donc, ils essayent de faire respecter ces tolérances, etc. Donc, c'est...
Je sais que vous avez un peu laissé de côté la question, mais avez-vous lu comment Deparcieux est arrivé à cette évaluation de 20 litres par jour ?
Alors, en fait, c'est un chiffre qui circule déjà avant lui un petit peu. Il y a assez peu de gens qui font ce type de réflexion, c'est-à-dire qui font l'idée que dans une ville, il y aurait un besoin moyen. Parce que c'est de toute façon un chiffre qui est très spéculatif, puisqu'il dépend énormément de ce que vous mettez dedans. Si vous mettez les chevaux, par exemple, ça vous explose complètement vos chiffres. Enfin bon, vous avez des problèmes comme ça. Les gens qui, avant lui, font ce genre de calcul sont essentiellement des gens qui réfléchissent sur les citernes. Donc c'est peut-être par là que vous en avez vu.
Oui, parce que pour Vauban, par exemple, c'est 5 pintes par jour par homme.
Par homme,
parce qu'on est obligé d'évaluer. Oui. Hein, donc on est un peu moins de 5 litres.
Oui.
Mais pour la consommation des hommes.
Oui. Vous avez, en fait, bien avant Deparcieux aussi, des gens qui réfléchissent à la consommation domestique dans les maisons. C'est les gens qui fabriquent ce qu'on appelle les fontaines domestiques, qui sont, bon, je ne vais pas du tout rentrer dans la qualité de l'eau, mais bon, l'eau essentielle qui est consommée à Paris, c'est de l'eau de la Seine. Elle est boueuse, elle est sale. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est vous recevez votre eau sale par le porteur d'eau et vous la mettez dans un objet domestique qui est dans votre cuisine, enfin, ou dans votre demeure, qu'on appelle une fontaine. On met ça dedans et les choses, ça se décante, les choses lourdes tombent au fond, les choses légères restent en haut, puis vous pouvez consommer ce qui est à peu près au milieu, quoi. Et les gens qui commercialisent, en fait, ce genre d'objets, il y a des fabricants et des marchands de fontaines, eux ont des réflexions là-dessus qui sont beaucoup plus proches de ces quantités-là. Mais en fait, il y a une vraie divergence entre ce type d'évaluation qui correspond beaucoup plus, je pense, ce que vous dites là pour les soldats, enfin, 5 pintes, et les faiseurs de fontaines qui ont, en gros, des évaluations entre 2 et 5 pintes par jour et par personne, qui sont, en gros, ce que la personne consomme réellement. Mais c'est des usages extrêmement limités. C'est essentiellement la boisson, parfois la cuisson des aliments, mais parfois même ils prennent une autre eau pour la cuisson des aliments, et bon, voilà, pour deux, trois autres usages. Donc c'est des usages définis de manière extrêmement restreinte, souvent. Typiquement, n'inclut pas les chevaux, enfin toutes sortes de choses comme ça, qui sont très explicitement là chez Deparcieux, puisque chez Deparcieux, c'est une moyenne sur les grandes et les petites maisons. Donc il y a un grand palais avec tous ces chevaux, tous ces domestiques, il y a tout le monde, quoi. Donc il y a les 30 litres par bête, là, etc. C'est, évidemment, ça monte les statistiques de manière considérable. Mais vous avez aussi tous les gens, il y a toute une tradition qui réfléchit donc à la citerne, à la construction des citernes, etc., surtout pour le sud de la France. Et là, là c'est des chiffres qui sont un peu intermédiaires, qui sont, disons, autour de 5-7 litres par personne et par jour. Donc on est, voilà, il y a plusieurs types de chiffres, et je pense qu'ils correspondent à différents types de professions et de types d'imaginaire de ce que c'est comme usage à chaque fois. Ils ne sont pas forcément incompatibles, je veux dire. Ça, je n'ai pas rencontré ça.
Parce que les ingénieurs des pensées chaussées au début du 18e, je pense à Henri Gautier notamment, a réfléchi aussi à cette question par le biais aussi des eaux qui seraient consommables dans des lieux où on va prendre les eaux. Donc ils réfléchissent à ça. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de calculs sur le besoin et la consommation de grains. Par les rations par jour, hein, plus que l'eau.
Oui. C'est-à-dire, en fait, bon, j'imagine que dans vos cas, en fait, sur les fortifications, là, on doit avoir une pensée de l'espace clos, avec cette idée que le besoin est global à l'intérieur de cet espace clos. Ça fait relativement sens. Mais pour les villes ordinaires, enfin, je veux dire, pour une non nécessairement fortifiée, il y a, ça se pose pas forcément de manière aussi évidente que la ville est quelque chose d'ouvert. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a un fleuve au milieu, quoi, il y a des porteurs d'eau. Donc, de toute façon, il y a jamais de vrai manque d'eau, quoi. Elle peut être plus sale, il peut y en avoir, enfin, elle peut être d'une qualité catastrophique, mais il y en a toujours, quoi. Donc, c'est.
Et André.
Lazare Carnot prend les chiffres de Vauban, parce qu'il dit qu'il faut 3 litres par jour pour le soldat français révolutionnaire, dont 1 litre pour faire la soupe et 1 kilo de bois pour faire sa soupe par jour. Donc il reste 2 litres pour se laver et pour sa boisson. Donc,
Mais bon, c'est moins surprenant dans le cas militaire, je pense, parce que c'est plus dans une réflexion sur la ration. En fait, ça rentre dans une même type de rationalité où effectivement on essaye de calculer ce qui est nécessaire à chacun. Voilà. Mais au niveau d'une ville, je pense que c'est légèrement différent. Ouais.
Bon, vous avez peut-être soif. Merci beaucoup, Frédéric. On va faire une pause jusqu'à 16h30. Merci, à tout à l'heure.